Les sciences.
Les sciences.
La connaissance.
La connaissance. La connaissance.
L'histoire.
L'histoire.
La nature.
La nature.
La médecine.
La médecine.
L'éthique.
L'éthique.
La psychologie.
La psychologie.
Les arts.
Collège Belgique.
Collège Belgique.
Collège Belgique. Lieu de savoir.
Le but du cours, c'est d'essayer de contrer, enfin de critiquer, enfin pas seulement de critiquer, mais de construire une alternative à ce qui me semble être un esprit du temps assez répandu dans le discours sur la science. Le discours sur la science, c'est le discours d'un certain nombre de philosophes, de sociologues, d'historiens des sciences, qui, à mon avis, enfin certains d'entre eux, pas tous, c'est pas l'ensemble que je vise, mais certains d'entre eux, pas quelques individus, me semblent être, disons, avoir une vision de la science qui pose problème. Et ce sont des débats que j'ai eus, avec, je reviendrai là-dessus, mais j'ai eu des débats là-dessus depuis le livre Ex Occult en 97, Imposteur intellectuel. Je ne vais pas revenir sur ce livre, ce n'est pas ça le sujet du cours, mais à cause de ce livre, j'ai eu des tas de débats, de conférences publiques et aussi par écrit, avec toute une série de gens appartenant à ce que j'ai appris, qu'on appelle le bas de la ville, c'est-à-dire les sciences humaines et les philosophies, etc. Parce qu'il paraît qu'on m'a fait remarquer un jour, que je n'avais pas remarqué ça jusqu'à récemment, mais que les sciences exactes étaient dans le haut de la ville. Et bon, donc on a eu des... Encore récemment, j'ai eu des débats justement avec des étudiants en sciences humaines, et souvent je pense qu'il y a une incompréhension de ce que c'est la science. Et donc, le comprendre la science ne s'adresse pas aux scientifiques qui veulent forcément la comprendre. Je vois qu'il y a un certain nombre de collègues dans la salle, mais essentiellement aux autres qui la comprennent, je ne dis pas qu'ils ne la comprennent jamais, mais où je pense qu'il y a sujet de débat, et je pense que ce débat existe à toutes les époques. Alors, je vais commencer par... Donc j'ai un certain nombre de citations, je vais vous mettre de temps en temps, en partie parce que je trouve qu'elles expriment mieux que moi ce que je veux dire, et alors évidemment... Je les cite parce que je suis habitué comme physicien à citer les sources, et donc je ne vois pas pourquoi j'irais répéter la même chose sans dire d'où ça vient. Je prétends évidemment aucune originalité dans ce que je dis, et d'autre part, parfois, je cite parce que je veux les critiquer, au moins je veux les citer. Alors on peut me reprocher de citer, ça c'est les reproches habituels, de citer hors contexte, etc. Ça, je répondrai, allez voir le contexte, et puis de toute façon, on peut en discuter. Qui plus est, je vous invite à poser des questions, à intervenir. Je suppose que c'est relativement rare, que les gens sont parfois un peu mal à l'aise pour intervenir, mais en tout cas, moi, je souhaite et j'essaierai de permettre de susciter la discussion au cours de la série de cours. Bon, alors, pour commencer, donc, je vais commencer par des citations qui me paraissent assez choquantes, et le but de cette... Je ne veux ni tirer trop ni trop peu de ces citations, je ne veux pas dire qu'elles sont typiques, mais elles ne sont pas totalement rares, et elles illustrent sous une forme extrême le genre de choses que je veux critiquer dans l'esprit du temps. Donc je vais commencer par ça, et puis je ferai le plan. Donc je ne vais pas commencer par le plan, ce qui serait d'habitude, je vais commencer par une mise en forme, si on veut, pour voir à quoi j'en ai, comme on dirait. En langage parlé, première citation, c'est un psychologue américain, Gergen, qui dit « La validité des propositions théoriques en science n'est en aucune façon affectée par les données empiriques. » Harry Collins, qui est un sociologue des sciences assez connu, dit « Le monde naturel a un rôle faible ou inexistant dans la construction de la connaissance scientifique. » Collins n'est pas un inconnu du tout. Gergen n'est pas très connu. Je le cite parce que j'ai eu un... Il se fait que, bon, dans les nombreux débats que j'ai eu une conférence où il était avec Sokal, et dans la conférence, dans son exposé, il a dit qu'on pouvait compter le nombre de sorcières dans la pièce dans laquelle se faisait la conférence tout aussi sûrement qu'on pouvait compter les atomes. Alors après, je lui ai dit, mais comment vous faites pour compter les sorcières? Alors il m'a dit, ben, on applique les procédures qu'on utilisait dans le temps pour déterminer si ces gens étaient des sorcières. Alors je lui ai dit, vous pouvez vous amuser à ce jeu-là, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de sorcières? Non. Et, il n'y a pas de sorcières dans notre culture, mais il y en avait dans la culture du XVIIe siècle. Je lui ai dit, mais c'était une illusion. Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'un des exemples qui m'a étonné. On peut dire que c'est une vue extrême, mais vous verrez que ce n'est pas vraiment si extrême que ça, et c'est d'une certaine façon cohérent. Alors Collins, par exemple, n'est pas du tout inconnu. Il y a un article dans Nature ce mois-ci qui est très raisonnable, je dois dire, et qui critique un peu les dérives antérieures, donc je ne veux pas l'accabler, mais au moins, c'est un exemple. Alors, Collins et Pinch, qui sont aussi deux sociologues des sciences assez connus, disent la relativité, par là, ils veulent dire la théorie de la relativité d'Einstein, est une vérité dont l'existence est le résultat de décisions sur la façon dont nous devons vivre scientifiquement et sur comment nous devons réguler nos observations scientifiques. C'était une vérité qui résultait d'un accord pour être d'accord sur de nouvelles choses. Ce n'était pas une vérité qui s'imposait à nous par la logique inexorable d'un ensemble d'expériences cruciales. Et là, on voit quelque chose sur lequel je reviendrai, c'est qu'on a une opposition, si vous voulez, entre deux vues qui, à mon avis, sont extrêmes, et je ne suis pas vraiment nécessairement d'accord avec ce n'était pas. Je ne dis pas nécessairement que la position que je vais défendre, c'est celle-là, mais évidemment, je trouve l'autre infiniment trop sociologique, si on veut. Bruno Latour, qui est sûrement le sociologue des sciences français le plus connu, donne comme règle de la méthode, une de ses règles, il donne 6 règles de la méthode dans la science en action, et il dit comme le règlement d'une controverse est la cause de la représentation de la nature et non sa conséquence, on ne doit jamais avoir recours à l'issue finale, la nature, pour expliquer pourquoi et comment une controverse a été réglée. Et donc là, je trouve, il y a un premier exemple d'une phrase qui, pour moi, est incompréhensible, parce que il dit que le règlement d'une controverse scientifique, par exemple, est la cause de la représentation de la nature et non sa conséquence. On ne doit jamais avoir recours à l'issue finale, la nature, pas la représentation de la nature, mais la nature. Et on glisse dans le discours, si vous voulez, entre la représentation de la nature et la nature, glissement sur lequel je reviendrai dans la suite. Pour les relativistes tels que nous-mêmes, Barnes et Bloor, qui sont deux principaux sociologues des sciences britanniques, on ne peut pas donner un sens à l'idée que certaines normes ou croyances sont réellement rationnelles, par opposition au fait qu'elles sont localement acceptées comme telles. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent, c'est l'idée que la rationalité, la vue du monde, etc., est simplement quelque chose qui est accepté localement comme tel. Stanley Aronowitz, qui est un spécialiste des études culturelles aux États-Unis, la science légitime en liant ses découvertes au pouvoir. Une connexion qui détermine et qui n'influence pas seulement ce qui compte comme savoir fiable. Donc là, j'aime bien cette phrase parce qu'au moins, il pourrait être ambigu et dire déterminé voulant dire influencer, mais ici, il précise, ce n'est pas seulement influence, mais détermine ce qui compte comme savoir fiable. Et Andrew Pickering, qui est un physicien des particules élémentaires, mais qui est devenu sociologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Construire les quarks », dit du point de vue défendu dans ce chapitre, il n'y a aucune obligation pour celui qui veut se façonner une vision du monde de prendre en compte ce que la science du XXe siècle a à dire. Pickering est un ancien physicien, c'est une religion, c'est un apostat. Alors je vais prendre un autre exemple plus proche de nous. J'ai encore 2-3 exemples. Je tenterai de construire une position, la position selon laquelle les pratiques de pèlerinage requièrent l'existence de la Vierge sur un mode irréductible à la subjectivité humaine, et selon lequel il est aussi important de ne pas insulter les pèlerins que de ne pas insulter les physiciens. Et cela, c'est nouveau, ça, pour ça que je le cite, parce que là c'est très clair, et cela non pas au nom de la tolérance, parce qu'il faut respecter les croyances des autres, qui sera un autre problème, on pourrait discuter, mais ce serait un autre problème. Si les concepts qu'il s'agit de créer autour de la notion de pratique scientifique, dans une épistémologue qui s'intéresse justement à créer des concepts au cours de la pratique scientifique, aboutissent à accepter l'existence objective des neutrinos et à renvoyer la Vierge au domaine de la subjectivité humaine, ils auront échoué parce qu'ils auront ratifié le lieu commun moderne et se prêteront à une capture qui les mobilisera pour la science. Ça, c'est Isabelle Stengers, qui est certainement une des philosophes belges, même en langue française, les plus connues, en tout cas en philosophie des sciences, dans un livre qui s'appelle « La Vierge et le neutrino ». Elle dit aussi là que la nature ne parle pas, affirment encore et toujours les sociologues des sciences. Lorsque l'on observe les laboratoires, ce sont les humains qui s'activent par les phénomènes qu'ils étudient, ce sont eux, non, la réalité, qui sont à l'origine des savoirs qu'ils produisent. Donc ça, c'est très très clair, je trouve, c'est une phrase très claire, et ça vous donne un petit exemple de choses, justement, que je veux discuter. Je ne discute pas pour l'instant, enfin pas trop pour l'instant, je situe simplement, dans l'exergue d'un cours d'épistémologie en sciences sociales dans une grande université belge, on lit dans l'exergue, hein, « Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit », qui est une phrase de l'épistémologue Gaston Bachelard. Et la décision sur ce qui doit être considéré comme réel est une des décisions les plus importantes qu'un groupe ou un individu puisse prendre. Certainement important, mais ce n'est pas ce qui est réel, ce qui est trouvé comme réel, mais ce qui est décidé comme réel. Ça, c'est Feyerabend, qui est un des épistémologues contemporains les plus... Alors, bon, un avant-dernier exemple, c'est extrait d'un livre qui était donné ou vendu, enfin je ne sais pas, distribué en tout cas, pour les enseignants du secondaire en physique en Belgique francophone, dans l'enseignement catholique, mais pour donner des notions d'épistémologie. Et alors c'est un glossaire, si vous voulez, et il y a le mot « fait ». Qu'est-ce que c'est qu'un fait d'après ce glossaire? Un fait est une interprétation d'une situation que personne à ce moment-là du moins ne veut remettre en question. Il faut se rappeler que, comme dit le langage courant, un fait s'établit, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un modèle théorique qu'on prétend approprier. Les affirmations, l'ordinateur se trouve sur le bureau, ou si l'on fait bouillir de l'eau, elle s'évapore, sont considérées comme des propositions factuelles, en ce sens que personne ne veut le contester à ce moment-là. Il s'agit de propositions d'interprétation théorique que personne ne remet en question. Affirmer qu'une proposition rejoint un fait, c'est-à-dire statut de proposition factuelle ou empirique, c'est prétendre qu'il n'y a guère de contestation dans cette interprétation au moment où l'on parle, mais un fait peut être mis en question. Exemple. Pendant des siècles, on a considéré, on a même glissement que chez Latour, on a un fait et la considération du fait. Jusqu'à présent, le fait n'est que l'interprétation du fait, enfin, dans ma façon de penser, dans celle que j'expliquerai plus tard. On a considéré comme un fait que chaque jour, le Soleil tournait autour de la Terre. L'apparition d'une autre théorie, comme celle de la rotation diurne de la Terre sur elle-même, a entraîné le remplacement du fait précité par un autre, la Terre tourne sur elle-même chaque jour. Évidemment, le naïf que je suis, et j'essaierai de justifier cette naïveté plus tard, pense évidemment que si le Soleil tourne autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil sont des faits, ce sont des faits qui n'ont pas changé quand on a remplacé une théorie par un autre. Et on reviendra à cette distinction essentielle plus tard, mais le discours clairement mélange les deux, et c'est dans ce lexique d'épistémologie pour l'enseignement. M. Fourré étant un professeur maintenant émérite aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. Alors, on peut me dire, évidemment, on me dit souvent ça, que ce n'est pas tellement important ou que j'exagère, etc. Mais ici, j'ai trouvé une citation qui m'a assez bien amusé. C'est dans un article de Bruno Latour, le même que j'ai cité avec les règles de la méthode, qui se plaint du scepticisme, il parle en 2004, dans le camp républicain américain à propos du réchauffement global, il se plaint des conspirations sur le 11 septembre, et il dit, est-ce que justement la critique n'a pas été trop loin, est-ce que l'esprit critique ne va pas trop loin, et est-ce que les sociologues des sciences comme lui-même ne sont pas responsables de la situation. Et il écrit ceci, les programmes de doctorat tout entier font en sorte que les jeunes Américains doivent apprendre que les faits sont fabriqués, qu'il n'existe pas d'accès non biaisé immédiat à la vérité, que nous sommes toujours prisonniers du langage, que nous parlons toujours d'un point de vue particulier, etc. Alors que de dangereux extrémistes, ils pensent aux gens qui contestent le réchauffement global, utilisent les mêmes arguments de constructivisme social pour détruire des données chèrement acquises qui pourraient sauver nos vies. Et donc le fait que Bruno Latour dise ça, évidemment il le dit en 2004, les citations sont plutôt des années 80-90, donc évidemment les choses ont un peu changé, et Collins dans l'article dans Nature va un peu dans la même direction, mais au moins le fait qu'il le dise montre que c'est vraiment qu'il est tout inventé. D'accord ? Là où Sokal et moi vous savez, c'est qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un problème dans la formation qui est donnée à leurs étudiants. Voilà. Alors le plan, maintenant j'ai fait mes citations, bon, je vais laisser de côté pour le moment, j'y reviendrai à la critique des citations. Préliminaire, je veux discuter deux choses qui sont des objections courantes, c'est une de quel droit je parle et à quoi bon s'occuper de ce dont je parle. Et puis, je viendrai à comment en est-on arrivé là. Parce que ce qui m'intéresse dans les citations, en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les citations. Beaucoup de scientifiques disent, bon, ça c'est des conneries, on s'en fout, mais moi je ne dis pas ça. Je pense qu'il y a une généalogie de ces idées et que la généalogie de ces idées a un aspect intellectuel intéressant. Donc comment est-on arrivé là où ce que j'appelle la crise de l'épistémologie classique, l'épistémologie classique étant celle qui a dominé, on va dire, la première moitié du XXe siècle. Le positivisme logique est popper essentiellement. Et puis alors, je vais passer à Quine, Kuhn et un peu Feyerabend, qui sont les successeurs et les critiques de la première, ça, c'est la première moitié, ça, c'est la deuxième moitié pour simplifier. Et ceux-là sont les critiques des premiers. Et après, les trois petits points, ben, c'est des citations. C'est-à-dire, comment en est-on arrivé, si vous voulez, aux zeitgeist contemporains. Et alors, la question, c'est, bon, maintenant, je veux, une fois ayant fait le diagnostic du problème, et en vue où était le problème, et en reconnaissant qu'il y avait bien un problème dans l'épistémologie classique, c'est comment reconstruire. C'est-à-dire, peut-on reconstruire une épistémologie, on va dire, rationaliste, à la fois rationaliste et empiriste, et peut-on le faire? Alors, je vais essayer de le faire dans ces cours, c'est ça le but que je me suis assigné, enfin pourquoi j'ai décidé de donner ces cours, c'est un peu pour me forcer à mettre mes idées ensemble et à faire ça. Alors je vais vraiment commencer, on verra pourquoi j'appelle ça la table rase, mais on va commencer au problème de l'idéalisme et de la vérité, la définition de l'idéalisme, la critique, l'attrait de l'idéalisme, expliquer pourquoi il est tellement présent, et puis la question de la vérité et de l'objectivité. Et ça, ce sera essentiellement pour aujourd'hui. Dans les cours suivants, je ferai la critique de la critique, c'est-à-dire j'essaierai de montrer à mon tour dans la critique de l'épistémologie ce qui ne va pas dans les thèses de Quine, de Kuhn, etc. Et puis j'aborderai la question du tri, que j'appelle le tri, qui était dans le temps la ligne de démarcation, le critère de démarcation entre science et non-science. Comment peut-on, après la chute, après la crise de l'épistémologie, encore faire une distinction entre la Vierge et le neutrino, pour aller vite, entre les sciences, les pseudosciences, la métaphysique, les religions, qu'est-ce que la méthode scientifique? Et si j'ai le temps, mais ça on verra combien de temps j'ai dans le troisième cours, on verra où on en est, les questions que j'appelle délicates, c'est-à-dire celles où les gens finissent toujours par se fâcher, comme des mots, qui sont des mots et qu'il faut définir avant de se fâcher, matérialisme, déterminisme, réductionnisme, réalisme et quantité inobservable en physique, si j'ai le temps. Donc les quantités inobservables, c'est des choses comme les forces, les champs, les électrons, les atomes, les atomes, les neutrinos certainement, et enfin qui ne sont pas directement observables, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc, ce sont aussi des questions délicates. Bon. Alors, bon, maintenant, ça c'est mon plan. Alors, première question, c'est d'où je parle. Quelle est l'autorité que j'ai pour parler de ces sujets? Je veux dire, on me dirait, évidemment, on peut me dire, vous êtes physicien. Jamais vous n'iriez parler de biologie ou de chimie, etc. Bon. De quel droit parlez-vous de philosophie, d'histoire ou de sociologie des sciences? Pourquoi ne laissez-vous pas cela aux experts, comme vous laisseriez la biologie, la géologie, etc. aux experts? Bon. Ma réponse à ça, c'est que ça dépend de quoi on parle. Si on me dit que on veut étudier tel détail de débat à l'Académie des sciences à Paris ou à la Royal Society à Londres, etc., à tel moment de l'histoire, moi je n'interviens évidemment pas, je ne prétends pas avoir d'expertise là-dessus. Je ne prétends pas non plus avoir l'expertise pour interpréter, comprendre tel texte de Leibniz ou de Kant ou de qui que ce soit. C'est pas ça la question. Mais quand on me dit, comme le dit Pickering, que, par exemple, que quelqu'un qui veut se façonner une vision du monde n'a pas à prendre en compte ce que la science du XXe siècle dit, alors j'estime que comme scientifique, j'ai le droit de participer au débat. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter une vision des choses où, au nom d'une expertise particulière en histoire, en philosophie, en sociologie, les gens qui sont ces experts vont dire maintenant aux scientifiques quel est le statut de la connaissance scientifique, de la vérité scientifique, ou de l'absence de vérité scientifique, où vont nous dire si la Vierge et le neutrino sont vraiment équivalents, etc., et s'il faut construire une épistémologie des pratiques qui rendent l'un nécessaire comme l'autre. J'estime qu'à ce moment-là, c'est tellement profond et ça nous touche tellement directement que c'est impossible qu'on ne réponde pas. D'accord ? Je dis, on a le droit de répondre. Notez qu'entre parenthèses, je pense ça aussi pour les non-scientifiques. Je pense ça pour les non-scientifiques dans le sens que j'ai toujours mal à l'aise quand je lis des études sociologiques sur les êtres humains, qu'on ne va pas après leur demander leur avis. Évidemment, on fait des sondages, mais quand on donne les résultats, qu'on fasse la sociologie des femmes de ménage ou des jeunes de banlieue, de toute façon, après, je suis toujours étonné, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent si on leur disait ce qu'on pense d'eux? Qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce qu'ils répondraient? Est-ce qu'ils pourraient plaider? Il me semble que le cas pour les scientifiques, c'est inévitable qu'on réponde, et il est évident que des gens beaucoup plus compétents et beaucoup plus intelligents que moi, comme scientifiques et peut-être aussi comme penseurs, ont répondu de tout temps. Il y a toujours eu ce genre de débat. L'exemple type pour moi, c'est Bertrand Russell, qui était quand même un scientifique dans le sens qu'il était un logicien, un mathématicien, mais qui a aussi demain produit beaucoup en philosophie. Mais vous pouvez penser à Monod en français, avec le hasard et la nécessité. Vous pouvez penser à Weinberg, par exemple, le physicien Weinberg, dans Rêve et théorie ultime, ou plus récemment à Dawkins, dans The Good Delusion, où il s'en prend surtout à la religion, mais où il y a évidemment des considérations philosophiques. Alors, ça c'est donc ça c'est la réponse, si vous voulez, que je laisse de côté, et je vais citer des textes techniques, si on veut, de philosophes, et si on me dit, oui, mais c'est pas ça ce qu'ils veulent dire, il faut mettre ça dans le contexte, je veux bien, mais je vais les prendre à la lettre, parce qu'ils sont clairs, ils disent certaines choses, et je peux critiquer ces thèses, c'est tout. D'accord ? Je ne prétends pas être un expert de l'histoire de la philosophie, certainement pas. Mais, évidemment, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, c'est que, si vous voulez, à cause du direct social, je me suis trouvé embarqué dans l'état de débat. Et alors, comme j'ai eu le genre de réaction que je vous ai dit, les citations que j'ai dit, je les ai vues, je les ai entendues dire, etc., je me suis dit, mais quelle est la base de ça? Alors on m'a renvoyé aux œuvres de Feyerabend, de Quine, de Kuhn, de Kant, etc. Et donc, je me suis mis à lire, à discuter, à essayer de comprendre ces idées pour y répondre. Donc, c'est le résultat, mon opinion bonne ou mauvaise, c'est le résultat d'un débat. Bien entendu, comme je l'ai dit en citant Dawkins, Weinberg, etc., Monod, d'autres plus éminents que moi ont participé à ce genre de débat, et Moi, je ne fais que donner mon point de vue. Je ne suis pas le représentant du syndicat des scientifiques auprès des philosophes. Je parle que pour moi-même, évidemment. Je dis différents scientifiques, mais évidemment, il y a des points communs. Nous n'avons pas tous le même point de vue, mais il y a des points communs et on peut retrouver des airs de famille dans la réaction des scientifiques. Alors, deuxième point, deuxième préliminaire, c'est pourquoi ça en faire ? Pourquoi pas dire « Oh, tout ça, on laisse tomber, c'est des conneries bon. ». C'est l'attitude de beaucoup de collègues scientifiques qui me disent « Oh, pourquoi tu perds ton temps ?» Bon, ça, perdre son temps, ça, on peut discuter, c'est peut-être une perte de temps, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que je pense que la science a deux impacts, technologique et culturel. Je pense que l'impact culturel de la science, si on fait l'histoire de l'Europe ou même du monde, depuis la naissance de la science, est énorme. Il est énorme essentiellement parce qu'il a eu un impact énorme. Ça, on y viendra un peu dans le deuxième cours, en termes de scepticisme par rapport à l'autorité. Elle demande, parce que la science demande un type de justification à ce qui est dit, elle met en question l'autorité, par exemple religieuse, mais aussi monarchique, absolue, l'autorité des dirigeants, si vous voulez, qui s'appuient sur des représentations qui ne peuvent pas être justifiées scientifiquement. Et d'une certaine façon, je pense que cet acquis de la science est très important. Les gens qui critiquent la science sont souvent prétendent être sceptiques, mais malheureusement, ils ne sont pas si sceptiques que ça quand il s'agit d'autres discours, par exemple des discours non scientifiques ou religieux, ou éventuellement même politiques. Et donc, moi, je pense que la science a un impact culturel très important, et je pense que par conséquent, c'est important de le défendre. Enfin, moi, je trouve que c'est important de le défendre. Chacun fait l'opinion qu'il veut. Et je ne reproche sûrement pas aux scientifiques qui disent, il y a des scientifiques qui me disent, mais nous, on est à la Tour d'Ivoire, on a des financements, on s'en fiche, et tout va bien. Et ça, c'est vrai que tout va bien, et probablement que tout continuera à aller bien. J'ai reçu un mail récemment d'un ami de l'UFB qui dit, tu te trompes en croyant que ça, c'est le principal problème pour la science. Je n'ai pas dit que c'était le principal problème pour la science, mais je pense que c'est un problème pour le reste de la société, pour l'image de la science dans la société. On peut s'en préoccuper, même si on reste dans la Tour d'Ivoire. Et par exemple, aux États-Unis, j'ai souvent cette discussion avec les scientifiques, eux sont souvent à la Tour d'Ivoire, ils vivent dans une société où la représentation du monde, entre autres à cause du créationnisme, est extraordinairement peu scientifique, mais ils sont très bien financés, aucun problème, ils peuvent rester, pas de problème, c'est qu'ils ont le choix, ils ne s'en préoccupent pas. Mais évidemment, alors il y a le problème aussi de l'épistémologie. Feynman, qui est un grand physicien, a dit que la philosophie ou la philosophie des sciences, je ne sais plus, est aussi utile aux scientifiques que les ornithologues ne le sont aux oiseaux. Et c'est une métaphore que j'aime relativement bien. Weinberg parle même de la déraisonnable inefficacité de la philosophie en sciences. Parce qu'un autre physicien, Wigner, avait parlé de la déraisonnable efficacité des mathématiques en sciences, cher Dominique Lambert. Et la philosophie, elle, par contre, il dit les mathématiques ont un effet inouï en sciences, mais la philosophie n'en a aucun. Je ne suis pas tout à fait d'accord, et je pense que quand on discute des fondements d'une discipline, particulièrement la mécanique quantique, que je n'aborderai pas, pas aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Je pense qu'avoir des idées claires philosophiquement peut être utile. Mais l'épistémologie, je trouve qu'elle est très importante, justement, dans le débat public et dans le rapport avec le reste de la société, quand on discute d'autres choses. Parce que même les plus grands scientifiques ne peuvent pas être de vrais experts, avoir vraiment une connaissance technique de tout. Hein? Si moi je parle de l'évolution, l'année Darwin, on aura sûrement une discussion sur l'évolution, moi je ne suis pas expert de ça. Je veux dire, je ne prétends pas l'être, je ne pourrais pas l'être. Mais c'est la même chose si vous discutez de toutes sortes de choses, de toutes sortes de problèmes, que vous parliez de l'homéopathie, de l'astrologie, de la psychanalyse, des conspirations sur en septembre, vous pouvez, du réchauffement global, de la crise économique, vous pouvez parler de toutes sortes de choses où en fait, l'immense majorité des gens, tout le monde, personne n'est expert. Et pour moi, malgré tout, une réflexion épistémologique ne permet évidemment pas d'apporter des réponses aux questions dont on n'est pas expert. Il faut être expert pour avoir une opinion bien. Mais quand même, de vous guider un petit peu dans la jungle des opinions. Ça permet de se guider. Hein. C'est juste guider un tout petit peu. Évidemment, le résultat des courses, en beaucoup de cas, en tout cas pour moi, c'est la suspension du jugement. Mais peut-être vaut-il mieux la suspension du jugement que des jugements hâtifs sur des questions sur lesquelles il n'y a pas de raison d'avoir une opinion tranchée. Et donc, je pense que, de ce point de vue-là, donc je pense qu'il y a au moins deux raisons de s'en préoccuper, à la fois de se préoccuper et qu'il est légitime de rentrer dans le débat. Bien. Ça, c'est les préliminaires. Maintenant, venons-en au comment est-on arrivé là. Alors, je vais vous faire un bref rappel, aperçu de l'histoire de la philosophie des sciences au XXe siècle. D'accord ? En m'attachant, ça ne va pas, évidemment, c'est pas une encyclopédie, c'est aux thèses, à certaines des idées principales, et essayer d'expliquer, en tout cas, quand la première moitié est celle où je me reconnais plus ou moins pourquoi ça n'a pas marché, donc je reconnais volontiers que ça n'a pas marché, je ne vais pas revenir au cercle de Vienne, par exemple, je vais revenir au cercle de Vienne dans un moment, mais pourquoi ça n'a pas marché, et puis alors expliquer ce que sont devenues les critiques. Je critiquerai les critiques plus tard. Alors je vais commencer par le cercle de Vienne, et en général le positivisme logique, qui regroupe, qui était un cercle, si vous voulez, constitué après la Première Guerre mondiale à Vienne, après il y en avait aussi à Berlin, il y en avait à Prague, etc. C'était l'Europe centrale, si vous voulez, et vous avez des gens comme Carnap, Reichenbach à Berlin, Schlick, Neurath, mais aussi des gens comme Gödel, par exemple, était membre du cercle, même qui n'en partageait pas les idées, Wittgenstein, aussi bien qu'il en a beaucoup, et il a beaucoup changé, Russell, qui n'en faisait pas membre, était proche dans ses idées, ailleurs aussi, et donc vous avez une série de gens qui pensent suivant dans cette ligne de pensée au début du siècle. Puis le cercle de Vienne, quand on lit les titres de cette époque, évidemment, c'est tout à fait différent des citations. C'est-à-dire que, par exemple, Carnap a écrit un livre qui s'appelle « La construction logique du monde ». Le manifeste qui a fondé le cercle, c'est pour une vision scientifique du monde. Vous connaissez le livre de Popper, « La logique de la découverte scientifique ». Et donc, tous ces philosophes, évidemment, sont en fait des gens qui se révoltent contre l'idéalisme dominant en Allemagne à cette époque, je viendrai à l'idéalisme plus tard, et qui se tournent vers les sciences en amoureux fous, on peut dire, et peut-être excessifs. Mais je dois dire qu'ils étaient grands supporters, si on veut, de la vision scientifique du monde. Et ils n'ont pas tout à fait disparu. Ils ont disparu, le cercle de Vienne, évidemment, en tant que tel, n'existe plus. Ils ont été victimes, si vous voulez, de la dictature cléricalo-fasciste de Dollfuss d'une part et de l'Anschluss de l'autre. Et donc, après l'Anschluss, ils ont dû fuir. Comme le fait remarquer ailleurs, la plupart d'entre eux n'étaient pas juifs, mais ils étaient beaucoup trop rationalistes et radicaux pour survivre aux nazis. Et donc, ils sont partis. Ils sont partis en Angleterre, en Amérique, etc. Ils ont colonisé, on peut dire, l'Amérique d'une certaine façon. Et encore aujourd'hui, dans les départements de philosophie, les citations que je vous ai données viennent de départements de sciences humaines ou d'études littéraires ou d'études culturelles, mais dans les départements vraiment de philosophie aux États-Unis, beaucoup de gens ne seraient d'accord, enfin ceux que je connais en tout cas sont en général d'accord avec le point de vue que je défends, et sont ce qu'on appelle la philosophie analytique. Petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas habitués à cette distinction, les héritiers du cercle de Vienne et de Russell et de Frege, de cette tendance, si vous voulez, logique, qui existe encore, sont très nombreux dans le monde, en Australie, dans le monde anglo-saxon en tout cas, sont appelés la philosophie analytique en général, par opposition à la philosophie dite continentale, qui est essentiellement la philosophie allemande du 19e et du 20e siècle jusque récemment, et presque toute la philosophie française de l'après-guerre. Et donc on appelle ça continental par rapport à l'analytique. Et contrairement, pour ceux qui ne sont pas habitués à la philosophie, c'est très très différent de la physique. Je veux dire, en physique, je prends l'avion, je vais en Chine, je fais un séminaire, je peux utiliser une notation que j'utilise ici, et on va me comprendre pratiquement pour à peu près tout. Mais en philosophie, c'est pas comme ça. Hein. Vous pouvez pas mettre Heidegger et Russell dans la même pièce, ni leurs disciples. Si vous prenez les philosophes analytiques et les philosophes continentaux, vous avez des batailles homériques entre les deux, ils se parlent pas. Et si vous voulez un livre amusant, il y a un livre de Pascal Engel qui s'appelle La Dispute, qui est un dialogue entre un représentant des deux, et c'est un livre assez amusant à lire si vous vous intéressez à ça. Enfin bon, ça, c'était une parenthèse. Revenons donc à certaines des idées qu'on peut attribuer au cercle de Vienne en résumé. C'est que, d'abord, on veut se fonder sur des choses certaines, disons. Donc on veut refonder la science, si vous voulez. L'idée, c'est de refonder la science, et de voir quelles sont les bases certaines, non discutables, sur lesquelles on peut se fonder. Et l'une, c'est la logique, évidemment, les lois de la logique, plus les sensations. Et donc l'idée, c'est de partir de sensations élémentaires, de préférence élémentaires, partir de sensations élémentaires et des lois de la logique pour sur lesquelles baser la science, reconstruire la science. Mais d'abord, évidemment, ils se rendent compte que les lois de la logique ne suffisent pas, sinon tout serait a priori. Donc il faut les données des faits, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est que les données de faits ? Une fois qu'on y réfléchit, c'est pas si simple, parce que c'est pas du tout simple ce qu'on entend par sensation élémentaire. Si je dis par exemple qu'il y a, je ne sais pas, une bouteille d'eau ici sur la table, Tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais si je veux la décomposer en sens... Mais qu'est-ce que ça a d'élémentaire? Il faut que je sache que c'est qu'une bouteille. Tout le monde, ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation, ça dépend... Des gens n'ont jamais vu une bouteille, ils ne savent pas ce que c'est qu'une bouteille. Je pourrais essayer de la décomposer en sensation en disant, voilà, il y a un point bleu là, à tel endroit de l'espace-temps, et un point blanc à tel endroit de l'espace-temps. Mais cette décomposition, alors, en choses élémentaires, n'est pas du tout utile, et ce n'est pas clair comment je vais reconstruire, à partir de ces données élémentaires, la bouteille d'eau. Et donc déjà la bouteille d'eau pose le problème de savoir qu'est-ce que ça veut dire une bouteille, comment sais-je que c'est qu'une bouteille, et en quoi est-ce que ma sensation d'une bouteille, est-ce que c'est une sensation qui est purement interne à moi, est-ce que c'est une sensation d'un objet externe, etc. Et je pense que la tentation de purifier, d'arriver à vraiment purifier le discours scientifique en le ramenant à des éléments indubitables, à partir de élémentaires, et isolés les uns des autres, à partir desquels on a tout à reconstruire, était voué à l'échec. C'était trop ambitieux, si vous voulez. La science accepte un certain nombre de choses, et on verra que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais tous les scientifiques accepteront que voilà, il y a une bouteille d'eau sur la table, et on verra ce genre de proposition, mais on ne va pas la décomposer en sensations plus élémentaires. Et ça, c'est une des choses qu'ils ont voulu faire. Et l'autre, c'était d'introduire, ça c'est un peu plus discutable, c'est également discutable dans le sens que on peut voir que ça ne marche pas tout à fait sans être tout à fait faux, mais ça ne marche pas tout à fait. C'est le critère de démarcation. C'est introduire une démarcation entre science et non-science. Ils avaient tendance à appeler ça la métaphysique, qu'ils n'aimaient pas, Heidegger par exemple. Il y a un célèbre article de Carnap, qui est une critique de Heidegger comme par l'analyse logique du langage. Et donc ils veulent introduire une démarcation entre science et non-science, mais basée sur la notion de sens. Donc on verra d'autres critères de démarcation plus tard, mais pour eux, c'était essentiellement le sens. Alors, l'idée c'était de dire que le sens d'une proposition, c'était, pour reprendre une phrase d'ailleurs, les moyens de sa vérification. Donc une proposition, si vous dites que vous dites quelque chose, si vous me dites comment le vérifier, alors vous avez dit quelque chose qui a un sens. Si vous ne savez pas me dire comment le vérifier, alors ça n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens, ça va partir à la métaphysique et ça va à la poubelle. Si ça a un sens, ça va partir de la science. Ça, c'est la démarcation. Je le simplifie un peu, mais il n'y a pas moyen de l'exprimer, à mon avis, il n'y a pas moyen de l'exprimer de façon beaucoup plus subtile sans que ça perde son intérêt. Donc l'idée, c'est que... Alors je vais prendre un exemple de proposition qui peut-être pour vous n'a pas de sens, je ne sais pas, je suis d'accord qu'elle est borderline, enfin elle est limite, mais bon, il y a 200 anges, exactement 200 anges au paradis. Alors, ça c'est une proposition, si vous voulez, ça dépend un peu de votre éducation, pour moi, ça a un vague sens. En tout cas, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Je ne le crois pas, je ne vois pas aucune raison d'y croire, ça c'est autre chose. Mais dire que je vais m'en débarrasser en disant que ça n'a pas de sens, ce n'est pas tout à fait ce que je dirais. Mais évidemment, si je dis que le sens est le moyen de la vérification, ça est certain qu'il n'y a aucun moyen de vérifier. Donc si je dis, il faut savoir si l'expression « le sens est le moyen d'une vérification » est une façon de capturer la notion intuitive qu'on a de sens, du sens qu'on donne aux phrases, ou bien est-ce que c'est normatif? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit ne devrait être prononcé que des propositions qui ont un sens au sens où on peut les vérifier? D'accord? Si c'est normatif, c'est un peu tautologique, d'une certaine façon, parce qu'alors il dit simplement en fait ce que nous considérons comme devant être fait, mais il faut encore justifier alors pourquoi ne pourrait-on pas dire des choses dénuées de sens au sens où ils l'entendent? D'accord? Puis il y a toutes les propositions de type relation personnelle, je t'aime, etc. Enfin, on peut rentrer, je trouve ça beau, les petites fleurs, tout ça. Et puis alors il y a moral, alors vous avez des assertions bizarres aussi chez Russell qui disent que ce sont des propositions dénuées de sens puisqu'elles ne sont pas vérifiables. Et donc je pense que cette ligne d'attaque, si vous voulez, c'est aussi embourbé dans des difficultés. De nouveau, c'est pas que ni dans l'un ni dans l'autre, je me dis que c'est tout à fait faux. Le problème dans toutes ces choses-là, ce n'est pas qu'elles sont tout à fait fausses, aussi dans ce qui va suivre, mais c'est qu'elles ne sont pas tout à fait vraies et qu'elles ne sont intéressantes que dans la mesure où elles donneraient vraiment un critère utile de démarcation. Alors, évidemment, l'autre problème évidemment chez eux, c'est qu'ils avaient une vue très inductiviste des choses-là. Je pense qu'ils avaient raison. Mais l'induction est quelque chose de très difficile. Quand est-ce qu'on fait une bonne induction? Quand est-ce qu'on fait une mauvaise induction? Donc l'induction, évidemment, c'est dire le soleil va se lever demain, parce que on a l'expérience qui s'est levé jusqu'à présent tous les jours. Et même si vous faites appel aux lois de la mécanique pour expliquer pourquoi il va se lever demain, les lois de la mécanique, vous croyez qu'elles sont encore vraies demain parce qu'elles étaient vraies hier. Ça, c'est un exemple d'induction. Vous faites un raisonnement inductif. Et ces raisonnements ne sont pas certains. Ils ne sont pas, comme on dit, déductifs. Ils ne sont pas... Donc, il y a l'induction posait des problèmes parce que c'était très difficile de définir a priori ce qui constituait une bonne ou une mauvaise induction. Alors il y a eu une critique assez radicale de toutes les idées du cercle, et qui à mon avis était un pas dans la mauvaise direction, mais ça je ne vais pas discuter de ça maintenant, mais qui était Popper. Alors Popper est beaucoup plus connu que les gens du cercle, a beaucoup mieux survécu. Il a été traduit en français très tard, je crois en 74, avec une préface de Jacques Monod. Je ne suis pas sûr que Monod comprenait tout ce que disait Popper, hein, parce qu'il y avait des choses étonnantes, et par exemple dans la théorie de l'évolution, je crois que Monod n'aurait pas été d'accord avec Popper. Mais, toujours est-il qu'il l'aimait bien, peut-être pour des raisons politiques, je ne sais pas. Mais en fait, toujours est-il qu'il est devenu, si on veut, Popper, c'est un peu l'épistémologie portable du scientifique, qui utilise ça en général dans les débats avec les non-scientifiques, et... Pour Popper, c'est relativement bien connu, il a introduit un autre critère de démarcation qui est la falsifiabilité. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que d'abord, évidemment, il rejette, il dit qu'on ne peut pas avoir une induction, on ne peut pas savoir qu'une théorie est vraie par induction, par exemple, parce que ça, on n'en est pas certain. Mais une chose qui est certaine, c'est de prendre une théorie, on prend une théorie, on en déduit des observations, on prend une théorie, mettons la théorie de Newton, on fait des observations, on déduit, ça c'est déductif, on déduit les observations, et puis on regarde. Et si c'est vrai, si les observations sont vraies, on est content, on continue. Si elles sont fausses, alors on sait que la théorie est fausse. Et ça, c'est tout schéma popérien. Mais il y a donc dans un schéma popérien, vous déduisez, vous regardez, si c'est faux, vous savez que la théorie est à la poubelle. Si c'est vrai, attention, si c'est vrai, vous ne savez rien de plus. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui n'est pas toujours compris chez Popper, mais qui est très clair dans la logique de la découverte scientifique, et sur lequel il revient souvent, et qui est une des principales difficultés de Popper, et dont les scientifiques qui utilisent Popper comme épistémologie portable ne se rendent pas compte, parce qu'ils seraient totalement d'accord avec ça, mais chez Popper, il y a un rejet total de l'induction. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de tests qu'une théorie passe pour être... quand elle fait des tests de falsification et elle réussit ces tests, c'est-à-dire qu'elle mène à des observations confirmées, ça ne mène à rien, sauf que parfois il dit qu'elle est corroborée. Mais alors quand on cherche à comprendre ce que corroborer veut dire chez lui, vu qu'il rejette l'induction de façon radicale, c'est pas du tout évident. Est-il rationnellement justifié de raisonner en partant de cas dont nous avons l'expérience pour arriver à des cas dont nous n'avons eu aucune expérience? La réponse incessante de Hume est non, ce n'est pas justifié. À mon avis, la réponse de Hume à ce problème est correcte. Moi, je pense qu'elle est incorrecte, bien que Hume est dans une situation un peu différente, on peut discuter du contexte là, mais ça ne m'intéresse pas. Mais tu vois, dit que chez Popper, c'est très clair. Mais si on ne peut pas justifier, si je dis par exemple que le soleil va se lever demain, je raisonne à partir de cas dont j'ai l'expérience, le soleil s'est levé jusqu'à ce jour, pour arriver à des cas dont je n'ai pas eu l'expérience, puisque c'est demain. Dire qu'il n'est pas justifié de penser que le soleil va se lever demain, enfin avec plutôt, mais, dire que ce n'est pas justifié, ça me paraît mettre à bas toute la science. Parce que si je ne peux même pas dire ça, qu'est-ce que je vais dire d'autre sur le prochain, si je vais construire un réacteur nucléaire, comment est-ce que je vais faire, etc. Je veux dire, il me semble évident que ce problème chez Popper est un problème sérieux qui est insurmontable. Il donne d'ailleurs un exemple pour lequel il rejette, qui explique pourquoi il rejette l'induction. Mais le problème de Popper, c'est dans cet exemple, on voit tout le problème, c'est qu'il était à un certain moment, il travaillait avec le psychanalyste Adler. Et un truc qui a éveillé ses soupçons par rapport à la psychanalyse et à Adler en particulier, c'est qu'un jour Adler lui parle de cas d'un enfant qui avait je ne sais plus quel symptôme, et Popper lui dit, est-ce que vous l'avez vu? Et Dieu non, je n'ai pas besoin de le voir, je n'ai pas besoin de voir, parce qu'avec mon expérience mille fois répétée, je sais tout de suite de quoi il s'agit. Et alors, Popper dit, maintenant, dans son expérience, elle est répétée mille et une fois. Et donc, il se moque de l'induction en disant, ça ne va pas de procéder comme ça, de dire, parce qu'il confirme ce qu'il dit, il confirme ses théories de façon tautologique, puisqu'il n'observe pas le cas, et puis il dit, c'est un nouveau cas qui confirme ses théories. Mais c'est évident de voir quel est le problème avec cet exemple. Il pourrait prendre un médecin, moi je suis sûr qu'il y a des médecins qui réagissent comme ça, et qui ont parfaitement raison de réagir comme ça, parce qu'il s'agit d'un rhume ou d'une grippe banale, et il y a des choses pour lesquelles ils peuvent éventuellement se faire une opinion. Je ne dis pas que c'est une bonne pratique, mais je veux dire, c'est pas nécessairement faux, et si les choses sont suffisamment bien connues, la seule chose c'est que la psychanalyse d'Adler était pour le moins spéculative, et que l'objection de Popper, dans ce cas-là, était correcte, mais n'était pas nécessairement correcte contre l'induction en général. Bon, mais maintenant, le problème principal pour moi, ça on met de côté, parce que ça on peut l'oublier éventuellement, le problème principal, c'est qu'est-ce qui compte comme falsification? Qu'est-ce qui compte comme falsification? Alors, Alors, si, d'abord, prenons par exemple ce schéma théorie-observation. Prenons la théorie de Newton, la théorie de la gravitation universelle de Newton. Je ne vais pas vous expliquer les équations de la théorie, mais si je vous donnais les équations, et que vous n'êtes pas très malin, vous ne connaissez pas la réponse, à mon avis, vous n'en tirez rien. Parce que Newton, on a trouvé quelque chose, mais il n'était pas, il était quand même à un niveau plus élevé que la plupart des gens, je ne vexais personne, et donc, mais et si vous ne connaissez pas, moi je connais la solution, enfin je connais la solution dans certains cas, mais d'abord il faut, pour que la théorie soit même testable au sens de, enfin, au sens de Popper, falsifiable si vous voulez, il faut déjà en tirer, réfléchir, en tirer des conclusions, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des conclusions qu'on peut tirer demain d'une théorie qui aujourd'hui n'est pas... falsifiable. L'exemple typique aujourd'hui qui est un exemple réel, c'est la théorie des cordes. Autant que je sache, elle ne mène aucune prédiction empirique, mais les gens continuent à travailler en disant oui, mais qui nous dit que demain on ne trouvera pas des prédictions. Ils sont d'accord qu'il faut bien qu'il y ait des prédictions quelque part, mais... Alors, ça c'est un premier problème. Mais l'autre problème, c'est que dans cet exemple archétypique de la naissance de la science moderne, qui est l'exemple de la gravitation universelle, vous avez déjà, pour arriver à des conclusions, quelles qu'elles soient, vous devez faire des hypothèses additionnelles, comme on dit, particulièrement que les planètes entre elles n'interagissent pas. C'est-à-dire que quand on étudie les équations, on a un système qui dit il y a le Soleil, et puis il y a les planètes, un certain nombre de planètes qui interagissent entre elles et avec le Soleil, et on dit on oublie l'interaction des planètes entre elles, on regarde seulement une planète avec le Soleil, et puis une autre planète avec le Soleil, etc. Et c'est comme ça qu'on résout le problème. Mais si on ne le résout pas comme ça, on ne sait rien dire, et encore aujourd'hui on sait qu'on ne sait rien dire, et on comprend même avec la théorie du chaos pourquoi on ne sait rien dire, ou presque rien dire. Donc, il y avait des hypothèses additionnelles. Ces hypothèses additionnelles, on a eu la chance qu'elles soient vraies, mais Jupiter aurait pu être beaucoup plus grand, aurait pu avoir beaucoup plus de planètes, et les choses n'auraient pas marché. Donc, il y a... Alors, quand on se rend compte qu'une observation est fausse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut dire, le schéma popérien dit, ah, on rejette la théorie, puis on rentre à la maison, on n'a rien appris si elle est vraie, mais si elle est fausse, on a appris que la théorie était fausse. Mais, le problème, c'est que, par exemple, si on prend la théorie de Newton, il est bien connu, enfin il n'y a pas que ce problème-là, mais il y a le problème de ce qu'on appelle le périhélie de Mercure. C'est-à-dire l'orbite de la planète Mercure ne suit pas exactement les prédictions newtoniennes, et cette observation a été connue depuis le milieu du 19e siècle. Et les gens ont cherché toutes sortes d'explications, dont aucune ne marchait. Et en général, c'est considéré comme une grande victoire de la théorie d'Einstein en 1915, d'avoir prédit correctement le périhélie de Mercure sur la base de la relativité générale, qui était une autre théorie, en opposant la théorie de Newton. Mais laissons de côté Einstein, la relativité générale, prenons le raisonnement des gens au 19e siècle. Est-ce qu'ils ont rejeté la théorie de Newton? Non, évidemment. Ils avaient raison de ne pas le faire, on viendra aux raisons de ne pas le faire plus tard. Mais si vous êtes un strict popérien, je ne comprends pas très bien pourquoi. Parce que la théorie faisait une prédiction non ambiguë qui était fausse, alors on rejette la théorie. Mais en l'absence d'alternative et ayant tellement de succès pour la théorie newtonienne, c'était rationnel de ne pas la rejeter. Alors, le problème devant lequel on se trouve avec la falsifiabilité, c'est qu'on ne sait pas très bien quand on doit l'appliquer, en tout cas on ne sait pas avec les mots de Popper, en tout cas quand il faut l'appliquer, dans certains cas oui, dans certains cas pas, mais ce n'est pas du tout évident. Et alors, si on prend, par exemple, Popper prend le critère de la falsifiabilité principalement pour la psychanalyse et le marxisme, mais et éventuellement l'astrologie et des choses comme ça, mais le problème... C'est qu'un psychanalyste pourrait admettre que, par exemple, dans un monde où il y a, je simplifie, mais enfin, un monde où il n'y aurait jamais de rêve, la psychanalyse serait fausse. Donc, d'une certaine façon, la psychanalyste prédit quelque chose. Elle prédit que dans le monde où on est, il y a des rêves, par exemple. Alors, évidemment, cette prédiction est vraie, mais le problème, par conséquent, c'est pas vrai qu'elle est totalement non falsifiable, le fait des prédictions. Mais la raison pour laquelle on ne les considère pas comme des grandes théories scientifiques, enfin, pas nécessairement, pas à cause de cela, en tout cas, c'est que la prédiction est trop banale. Elle est connue de tout le monde, et donc, et la théorie n'est pas la seule qui la prédirait, etc. Donc, il n'y a pas de raison de croire, de se baser là-dessus. Mais d'un autre côté, pour un strict popérien, ce n'est pas très clair, parce que ou bien vous dites, il faut que la théorie dise quelque chose sur le monde qui pourrait être faux en principe, ou que le cas psychanalyse dit des choses sur le monde qui pourrait être faux, il y a des scientifiques, en tout cas des candidats à la science, ou bien vous dites que vous devez prédire qu'à tel jour, à telle heure, vous allez voir telle observation, et si elle n'est pas bonne, vous jetez la théorie, ça c'est l'autre cas extrême, et alors vous jetez la théorie de Newton, au vu du périhélie de Mercure. Et donc, ou bien vous preniez une notion laxiste de falsifiabilité qui n'élimine pas les bêtes noires de Popper, à savoir le marxisme et la psychanalyse, ou bien vous preniez une notion stricte de falsifiabilité et vous rejetez la théorie de Newton au 19e siècle. Et pratiquement toutes les théories scientifiques aujourd'hui ont des problèmes de ce type-là. Et chez Newton, on parle de la théorie de Newton, mais maintenant on a le problème de la matière sombre, d'énergie sombre, on a des trucs qui ne sont pas très visibles à l'œil nu, qu'on a été obligé de postuler, qui représentent, je ne sais pas, 90% ou plus de l'univers. Donc, on a beaucoup de quantités de choses qu'on est obligé de supposer, si vous voulez, et qui ne sont pas réellement falsifiables, et qu'on pourrait considérer d'un point de vue popérien comme hétérodoxes. Et donc, si vous voulez, le problème de... Donc le problème de Popper, c'est pas que c'est ce qu'il dit de entièrement faux, évidemment, mais c'est que si on y réfléchit et qu'on essaye d'être strict, on se rend compte, on essaie d'être précis, on se rend compte que c'est pas clair comment il faut être précis. On se rend compte que c'est pas clair. Et évidemment, je pense que Popper est correct psychologiquement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de discussions avec des gens. Quand je discute avec des psychanalystes ou des défenseurs de pseudosciences, etc., j'ai toujours le problème qu'ils essayent d'éviter la falsification en déplaçant la discussion d'un cas à l'autre, en disant « oui, mais c'est pas ça, il faut regarder telle autre expérience ». Bon, et alors on n'a pas un critère net à un moment donné, ou une expérience nette, comme on pourrait avoir dans beaucoup de cas en physique. Ça, psychologiquement, c'est vrai, et je ne dis pas de nouveau qu'aucune de ces choses que je critique est entièrement fausse, simplement qu'elles ne sont pas aussi vraies, aussi sûres, qu'on ne le pense aussi clair qu'on ne le pense parfois. Et de ces problèmes-là, de la prise de conscience de ces problèmes-là, et dans le cercle de Vienne, dont Popper avait lui-même mentionné les difficultés, et dans l'épistémologie de Popper, est née l'épistémologie de la deuxième moitié du XXe siècle, qui commence avec Quine, et qui continue avec, si vous voulez, Kuhn et Feyerabend. Et puis, la sociologie des sciences, etc., ce qu'on a appelé le programme fort en sociologie des sciences, auquel je viendrai. Première étape, qui est Quine et qui est souvent citée. Quine est un philosophe américain qui a vécu très longtemps. Je ne sais pas, il est mort autour de 2000, je crois. Il est né en 1908. Enfin, tu as dit qu'il a écrit dans les années 50 un article très cité qui s'appelle « Les deux dogmes de l'empirisme ». Et Quine est un élève de Carnap et il travaille tout à fait dans le cercle, dans la philosophie, dans l'idéologie, si vous voulez, du cercle de Vienne ou de sa suite, et il est certainement rationaliste, et enfin il n'est pas du tout, on ne peut pas le traiter d'irrationaliste, mais les idées qu'il a introduites, prises à la lettre, et malheureusement de nouveau c'est la même question qu'avec Popper et les autres, c'est ou bien vous prenez les choses à la lettre, et alors c'est intéressant, ou vous ne les prenez pas à la lettre, alors c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, et c'est pas clair que ce soit particulièrement original. Quine a mis en question, si vous voulez, de façon radicale, l'atomisme des propositions dont j'ai parlé au début à propos du cercle de Vienne, c'est-à-dire l'idée que vous allez essayer de décomposer votre discours sur la réalité en termes de sensations aussi élémentaires que possible, en termes de choses aussi simples et aussi élémentaires et que vous pouvez vérifier une à une. Donc il y a une bouteille d'eau, ici il y a une autre bouteille d'eau, deux verres, etc. Vous allez essayer de vous limiter à des propositions factuelles isolées les unes des autres. Et alors, comme on l'a vu par exemple avec le cercle déjà, le problème c'est que déjà ces propositions élémentaires font appel à des concepts qui ne sont peut-être pas élémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une bouteille d'eau? C'est pas si simple, si vous voulez dire ce que ça veut dire. Que la question du sens n'est pas très, très clair non plus, parce que le sens des mots fait appel à toutes sortes d'autres choses. Et puis finalement, quand on a la falsifiabilité ou la réfutabilité, si vous voulez, popérienne, on se rend compte que, en fait, ce qui est le problème, c'est que tout ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que, vu les succès de la mécanique classique, il était rationnel de mettre au frigo les problèmes qui se posaient avec le péril de Mercure. C'est plus ou moins l'attitude des scientifiques de l'époque, et je pense qu'elle était rationnelle. Mais c'est une rationalité qui ne rentre pas de façon simple dans l'épistémologie popérienne, et il y a comme ça un certain nombre de problèmes, mais la rationalité dépend du contexte. Donc elle dépend, on se rend compte que finalement, en science, les mots qu'on utilise dépendent, on ne sait pas très bien de quoi, parce que le sens des mots, on ne sait pas très bien d'où il vient. Et puis, l'expérience n'est pas si simple, parce que quand il y a un truc qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est les lois de Newton qui ne marchent pas? Est-ce que c'est une autre planète qui perturbe le mouvement de Newton, comme ça avait été le cas pour Neptune et Pluton? On avait remarqué que Neptune et Pluton aussi ne respectaient pas, si vous voulez, Uranus et Pluton ne respectaient pas le mouvement des lois de mouvement de Newton, mais ça a été expliqué par la découverte d'un autre astre qui le perturbait. Bon. Et donc vous avez toutes sortes de problèmes, de savoir où vous allez changer, qu'est-ce que vous allez changer dans vos théories. En plus, évidemment, ils se sont rendus compte, et ça c'est une thèse, ce qu'on appelle parfois la thèse de... Les thèses, on les associe parfois à celle de Duhem, qui lui est un physicien, mais aussi qui a beaucoup réfléchi à la philosophie au début du XXe siècle en France. Et on associe souvent les deux noms, Freud et Duhem. Il y a le fait que les théories, les expériences, en fait, dépendent des théories. C'est-à-dire, c'est la théorie qui vous dit ce qu'on peut mesurer d'une part, et ce comment on mesure. Parce qu'avant de faire fonctionner un appareil de mesure, en tout cas aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que les histoires avec le verre qui est sur la table, dont parlerait par exemple le cercle de Vienne, ou bien l'éternelle histoire de savoir si tous les signes sont blancs, il suffirait de voir un signe noir pour ne pas savoir que tous les signes ne sont pas blancs, qui est un exemple de nouveau donné dans la discussion popérienne. Mais quand on voit ce genre d'exemples, quand on les voit dans les philosophes des sciences, on se rend compte qu'il n'y a aucune connexion avec la pratique scientifique. La pratique scientifique est infiniment plus compliquée et effectivement, les vraies expériences scientifiques dépendent de la théorie, donc de toutes sortes d'hypothèses. Et ce que s'est exprimé de façon assez radicale par Quine, de façon assez élégante, il dit « Nos énoncés à propos du monde extérieur font face au tribunal de l'expérience sensorielle, non pas individuellement, c'est pas énoncé par énoncé, mais dans leur ensemble. Prise collectivement, la science a une double dépendance, à la fois par rapport au langage, le sens des mots qu'on utilise, et par rapport à l'expérience. Mais cette dualité ne peut être repérée de façon significative dans les énoncés scientifiques pris en un, ce qui était l'idée, si vous voulez, du cercle, d'unité de signification empirique, et la science tout entière. » Alors ça, là, cette phrase-là, elle va beaucoup trop loin, et lui-même l'amende plus tard, mais une autre proposition, si vous voulez, qui est dans les deux dogmes, c'est que toute proposition peut être maintenue comme vraie, quoi qu'il advienne. Si nous faisons des changements suffisamment drastiques ailleurs dans le système, même un énoncé très proche de la périphérie, c'est-à-dire proche de l'expérience directe, qui voit les énoncés, si vous voulez, comme un espèce de réseau d'énoncés avec, sur le bord, les énoncés en contact avec l'expérience, peut être maintenu comme vrai face à une expérience récalcitrante en plaidant l'hallucination ou en amendant certains énoncés d'une espèce d'idée logique. Là, il va beaucoup, beaucoup trop loin, parce qu'évidemment, si je plaide l'hallucination, je peux toujours tout maintenir, et le fait de changer, comme il dit, certains énoncés d'une espèce d'appelée loi logique est une coquetterie qui me paraît tout à fait déplacée, parce que je ne vois pas comment on peut changer les lois logiques, mais... Dans les discussions sur mécanique quantique, c'est ce que certains ont proposé et proposent encore. Je pense que c'est une erreur, mais bon, je ne vais pas discuter de la mécanique quantique aujourd'hui. Et donc, pas beaucoup en tout cas. Et donc, il va jusque-là. Et alors, évidemment, si vous êtes prêt à changer la logique ou à plaider à l'hallucination, alors vous pouvez soutenir n'importe quoi. Vous pouvez soutenir que le périhélie de Mercure est compatible avec les lois de Newton. Et n'importe quel résultat d'expérience récalcitrant est compatible. Il suffit de dire que l'appareil de mesure ne fonctionne pas comme prévu. Ou que il y a un démon qui chipote à votre appareil, ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, il réintroduit l'idée, si vous voulez, qu'il y avait... Mais évidemment, ça peut paraître idiot, mais dans le cadre des controverses autour du positivisme logique, il rappelait, si vous voulez, un peu que l'herbe est verte, c'est-à-dire il rappelait quelque chose qu'on aurait toujours dû savoir, c'est que notre connaissance suppose un bagage de choses implicites que l'on accepte sans poser de questions. On accepte, par exemple, qu'il n'y a pas de démon qui manipule nos appareils de mesure juste quand on le fait, d'accord? Et donc, on accepte toutes sortes de choses implicitement, et ce bagage implicite... Il y a un bagage implicite qui rend la science possible, mais qui n'est pas tout à fait clair. Alors, enfin, il n'est pas clair ce qu'il est, mais il rend alors les tentatives de caractérisation à la Popper, au cercle de Vienne, à peu près impossibles. Et donc, si vous voulez, on peut dire qu'il y a eu un déplacement de l'atomisme vers le holisme. Déplacement de l'atomisme, c'est-à-dire où on essaye de dire qu'on va isoler les propositions, les vérifier ou les falsifier une à une, et puis l'idée que finalement, ce qui se présente devant le tribunal de l'expérience, c'est la science tout entière. Et donc s'il y a quelque chose qui cloche, on ne sait pas où il faut changer les choses, d'accord? Mais néanmoins, on ne pense pas que la théorie de Darwin va être falsifiée parce qu'on a fait une observation sur la théorie d'Einstein. Mais quand on lit Quine, de nouveau, j'ai le problème de savoir que si on le prend vaguement, c'est pas faux. Il rappelle des évidences, qui est que, par exemple, on pourrait très bien, certainement, c'est moi qui fais l'expérience, si les choses capotent, je veux dire que c'est moi qui ai mal fait l'expérience, ou que l'appareil de mesure a été mal manipulé. Donc, ce n'est pas idiot, nécessairement, de dire ça. Mais évidemment, si on refait l'expérience 200 fois, ça devient idiot de dire ça. Il y a quelqu'un qui donne un exemple très simple d'objection au holisme de Quine. Il dit, si j'ai une théorie comme quoi le fait de manger du gâteau au chocolat tous les jours va me faire maigrir, c'est ma théorie, et que je teste cette théorie en allant sur ma balance tous les jours et je vois l'échelle de la balance augmenter régulièrement, d'accord, je peux encore évidemment plaider l'insulation, mais je peux aussi dire que les lois de la mécanique fonctionnent dans ma salle de bain d'une façon bizarre et que ma balance fonctionne de façon bizarre, et par conséquent, je sauve ma théorie. Mais quand on fait ça, ça devient idiot. Simplement, de nouveau, le problème, c'est comment énoncer les choses précisément, comment le dire précisément. Si vous prenez la thèse de Quine littéralement, c'est facile de voir qu'elle est excessive, mais c'est difficile de dire qu'elle est tout à fait fausse, de nouveau. Elle met le point sur les i des difficultés de l'épistémologie précédente. Et puis vous avez Kuhn. Alors Kuhn, ça c'est un historien essentiellement, il a écrit un livre qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », qui est un livre qui a eu beaucoup d'impact, il y a un impact énorme, et c'est un livre d'histoire en principe qui décrit, si vous voulez, l'histoire des sciences comme une série de révolutions où on passe d'une vision du monde, de ce qu'il appelle un paradigme, à un autre, par exemple de Newton à Einstein, ou de vision pré-darwinienne à Darwin, je ne sais pas, il donne de l'atomisme avec Dalton, on passe d'une vision du monde à une autre, et il représente, si vous voulez, l'intérêt de Kuhn, de son point de vue, et certainement du point de vue de la plupart de ses lecteurs, ce n'est pas que c'est un livre de plus d'histoire des sciences, mais qu'il est supposé être, à travers l'histoire des sciences, un bouleversement de l'épistémologie, de nouveau pré-cunienne ou pré-cunienne, si vous voulez. Kuhn, c'est plutôt le début des années 60. Et de nouveau, on introduit, chez Kuhn, on introduit un énorme holisme. Parce que, pour Kuhn, le paradigme, c'est ce qui définit tout. Ce qui définit, c'est l'ensemble des présupposés d'une démarche scientifique donnée. Donc il distingue la science normale et les révolutions. Et dans la science normale, qui est la science que la plupart des gens font, quand ils font de la science normale, ils travaillent à l'intérieur d'un certain nombre de présupposés. Par exemple, le modèle atomique, la théorie quantique, la relativité, la mécanique classique, etc. Ils travaillent à un certain nombre de présupposés qu'ils ont en commun, qu'ils apprennent dans leur éducation. Et ces présupposés ne sont jamais mis en question. Ces présupposés définissent le type de questions qu'on peut poser. De nouveau, le fait que la science n'est pas indépendante de l'expérience n'est pas indépendante de la théorie, on retrouve l'idée kuhnienne. Donc, si vous voulez, vous avez la théorie détermine ce qui compte comme question et ce qui compte comme bonne réponse. Quand est-ce que vous considérez qu'une réponse est valide ou pas, déterminée aussi par la théorie, les questions, les problèmes, etc. Et donc, d'une certaine façon, le problème, quand on le pousse à fond, de nouveau, c'est quand on le pousse à fond, c'est bien à la fois intéressant et faux, mais c'est comme ça qu'il est lu aussi, qu'il est compris. C'est que le paradigme, c'est d'une certaine façon, il vous détermine votre vision du monde, et vous pouvez évidemment travailler à l'intérieur d'un paradigme. Et de temps en temps, il y a des difficultés qui apparaissent dans un paradigme, et puis tout change, et on change de paradigme. Alors ça, il n'explique pas tout à fait de façon satisfaisante pourquoi on change de paradigme, mais c'est une des difficultés de son point de vue. Mais une fois qu'on a changé de paradigme, on raisonne dans un autre monde, et on ne peut pas dire, tiens, un paradigme est meilleur qu'un autre. Naïvement, moi je croyais quand j'étais étudiant que la mécanique classique avait été remplacée par la relativité, ou la relativité générale, ou la mécanique classique, et qu'il y avait un progrès. Mais chez Kuhn, non. L'idée de progrès, enfin, on ne peut pas dire qu'il la rejette tout le temps, parce qu'il y a toujours le problème dans cette vue radicale que parfois il y a des énoncés plus... Mais je vais vous donner deux énoncés de Kuhn qui sont, à mon avis, très clairs. À propos de Dalton, et du fait qu'il a constaté que les composés chimiques s'exprimaient plutôt comme des rapports de nombres entiers qui représentaient, si vous voulez, la composition chimique au sens moderne du terme, en termes atomiques. Il dit que les chimistes ne pouvaient pas accepter la théorie de Dalton, à l'époque, en 1820, au vu de ses preuves, car une grande partie d'entre elles était encore négative. Et donc, après avoir accepté la théorie, c'est-à-dire après le changement de paradigme, il leur fallut forcer la nature à s'y conformer, processus qui, en l'occurrence, prit encore presque une génération. À la suite de quoi, même le pourcentage de composition de composés bien connus se trouva différent. Les données elles-mêmes avaient changé. C'est ici le dernier des sens dans lequel nous pouvons dire qu'après une révolution, les scientifiques travaillent dans un monde différent. Donc le monde dans lequel travaillent les scientifiques est là, alors on arrive de façon tout à fait proche des citations que j'ai données au début. Parce que le monde dans lequel travaillent les scientifiques est construit par le regard qu'ils ont sur le monde, qui lui-même est déterminé par le paradigme. Et la phrase suivante de Kuhn, c'est... Alors ça, c'est plutôt la leçon épistémologique qu'il tire de ses recherches. La notion d'une adéquation entre l'ontologie d'une théorie, ce que la théorie dit être, et sa contrepartie réelle dans la nature me semble par principe une illusion. Je ne doute pas, par exemple, que la mécanique de Newton ne soit une amélioration par rapport à celle d'Aristote et celle d'Einstein soit meilleure que celle, de Newton, en tant qu'instrument pour la résolution des énigmes. Mais je ne vois dans leur succession aucune direction cohérente de développement ontologique. Alors, il faut comprendre ce qu'il veut dire par résolution des énigmes. Le problème de la résolution des énigmes, chez Kuhn, on peut dire, bon, il résout des problèmes, après tout, on sait faire plus avec, on peut envoyer des fusées sur la Lune avec une théorie, pas avec une autre, on utilise la relativité générale dans les GPS, donc, bon, on peut dire ça. Mais pour lui, la résolution des énigmes est interne à un paradigme. Ce qui définit les énigmes ne sont pas des trucs donnés de l'extérieur du paradigme, mais sont de nouveau internes au paradigme. Et donc, quand les gens qui défendent un paradigme disent que leur paradigme est meilleur qu'un autre, il est meilleur relativement à la résolution d'énigmes qu'elles-mêmes sont relatives à la notion de paradigme. Et à partir du moment où on est là-dedans, on tombe effectivement dans le relativisme. Kuhn lui-même dit un peu après ça, si ma position est... Il y a des gens qui appellent ça ma position relativiste, moi je ne suis pas d'accord, mais si c'est du relativisme, je ne vois pas ce qu'il faut dans le relativisme. Moi je pense que c'est du relativisme, mais je pense que c'est un problème. Mais quand il dit par exemple qu'il n'y a pas de direction cohérente de développement ontologique, c'est parce que il prend des questions compliquées comme la nature de l'espace-temps, d'accord ? Et alors, ou bien la nature, ils prennent aussi l'exemple souvent de la lumière. La lumière était corpusculaire chez Newton, elle est ondulatoire au 19e siècle, elle devient les deux dans un certain sens au 20e, et alors ils disent, vous voyez, ça fait des va-et-des-viens. Mais si on prend, je ne sais pas, la composition du corps humain, alors là, on a l'étude de la cellule, on a l'étude chimique de la cellule, on a l'étude de l'ADN, etc., et il n'y a pas de zigzag. D'accord, il y a une direction ontologique très claire dans un seul sens. Donc je pense que là, on ne peut pas dire qu'il y a une notion de progrès. Et donc, mais chez Kuhn, il y a cette idée, donc il n'y a pas de progrès, et tout dépend du cadre. Il y a ce qu'on appelle, ce que Popper appelle justement, à juste titre à mon avis, le mythe du cadre. Bon, alors, ça c'est plus ou moins le tour de la question, si vous voulez. Quand vous avez par exemple la phrase de Bachelard que j'avais citée au début, que je trouvais excessive, en tout cas, de nouveau, voilà, rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit, mais c'est une phrase qui est une suite de l'épistémologie, du révisionnisme épistémologique de Quine et de Kuhn dont j'ai parlé, parce que, au lieu de dire tout est construit, on aurait pu dire tout dépend du paradigme, d'accord ? Mais ça en est en même, plus ou moins. Et donc, des phrases que je trouvais choquantes au début me paraissent... ici, c'est l'effet de la nature ne parle pas, ce sont les gens qui s'activent, etc. Parce que alors, l'étape suivante, si vous voulez, qui amène à la tour Barnes et Bloor, etc., c'est de dire que on va étudier la science, mais d'un point de vue entièrement sociologique. C'est-à-dire, on va étudier le discours des scientifiques, mais sans se préoccuper le moins du monde du rapport avec la réalité, mais uniquement étudier leurs pratiques d'un point de vue sociologique. Et pourquoi peut-on faire cela ? Ben, parce que, justement, Quine et Kuhn, etc., nous ont montré que tout dépendait du paradigme, tout dépendait du framework, de la façon de voir les choses. La façon de voir les choses, elle échappe à l'expérience, elle précède l'expérience, et par conséquent, elle est socialement construite. Je ne suis pas convaincu que la dernière phrase suit, mais c'est logique, c'est une question qu'on peut se poser, de se dire, elle est socialement construite, puisque elle est indépendante de l'expérience. Et c'est pour ça qu'alors on a alors la version plus radicale. Évidemment, Kuhn lui-même critique, et Feyerabend aussi critique certaines interprétations radicales. L'affaire est compliquée, mais on peut comprendre pourquoi ces concepts mènent à cette vision des choses. Donc ce déplacement, disons, qui va de l'atomisme vers le holisme, et d'un atomisme peut-être extrême vers un holisme extrême. Mais quand vous êtes holiste, alors effectivement, vous tombez d'une certaine façon assez facilement dans le relativisme, parce que vous dites qu'il y a des cadres, il y a notre cadre à nous, mais dès que vous acceptez qu'il y a d'autres cadres de pensée, par exemple magique, par exemple mystique, par exemple religieux, par exemple pseudo-scientifique, et que ces cadres ne peuvent pas être départagés parce que les vérités sont relatives aux cadres, alors vous tombez dans le relativisme. D'accord ? Le relativisme, c'est d'une certaine façon le holisme plus le fait d'accepter qu'il y a d'autres cultures, d'autres récits, d'autres visions du monde que la vision scientifique des choses. Donc, ces gens vont toujours me dire, quand je discute avec eux, ils disent, mais ce que vous faites est parfait. Ce que vous faites est parfait. Faites votre truc, mais dans votre cadre. Mais venez pas prétendre que vous avez raison par rapport à d'autres pratiques, par rapport à d'autres cadres, mettons la religion, les pseudosciences, etc. C'est ça le... Vous voyez comment on glisse de l'un à l'autre. Comment on arrive, si vous voulez, au livre, plus ou moins. Mais je dis pas que c'est juste, hein. Je vais critiquer ça. Mais, alors maintenant, je vais passer... commencer la tentative de reconstruction. Et alors, je vais essayer de commencer... Alors, ça, je n'ai jamais fait, en fait. Enfin, sauf dans les conversations, mais je n'ai pas encore... Je n'ai jamais écrit. C'est l'idéalisme. C'est, je vais commencer par une position qui est repérable dans l'histoire de la philosophie et qui, à mon avis, est l'holisme poussé à l'extrême. Vous verrez dans un moment pourquoi... qui est l'idéalisme. Et je veux critiquer, partir de la critique de l'idéalisme. Pour les questions de terminologie, comme il y a l'opposition qui se fait parfois entre idéalisme et matérialisme, l'opposé de l'idéalisme dans le cadre de ce cours sera le réalisme. Ça, c'est un terme technique, mais je ne veux pas... Je parlerai du matérialisme plus tard, mais pour l'instant, c'est la question du réalisme, et je définirai le réalisme dans un moment. Alors, donc ça, ce sera là, ma dernière... Après, je ferai la critique des... Je remonterai, si vous voulez, je vais partir la position qui me paraît la plus extrême, et qui malheureusement existe et est répandue, la critiquer, et puis revenir en arrière, et puis critiquer les positions moins extrêmes, la fois prochaine, etc. Et puis essayer de proposer une alternative. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéalisme ? Alors évidemment, ce n'est pas l'idéalisme moral, les gens qui ont un idéal dans la vie, ça se passe à la question. Ce n'est pas non plus l'idéalisme historique, l'idée que c'est les idées qui mènent le monde, ou peut-être les cultures, ou les âmes des peuples, des trucs comme ça, c'est autre chose. Ni même l'idéalisme métaphysique, ou ontologique, ou plus ou moins mystique, à savoir que la réalité ultime est en réalité faite d'idées, ou peut-être d'idées dans l'esprit de Dieu, ou des choses comme ça. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, je ne veux pas m'attaquer à ça. Je vais m'attaquer à l'idéalisme en termes de théorie de la connaissance, d'épistémologie, ou, comme on l'appelle parfois, d'un mot que je ne comprends, enfin que je comprends, mais qui est un peu savant, transcendantal, pour venir, si vous voulez, à l'œuvre de Kant. Alors, définissons, je vais commencer par essayer de le définir tant que je peux, et essayer de le... Bon, je vais essayer de l'expliquer. Je vais essayer de l'expliquer honnêtement, d'accord ? Mais bon, après je vais le critiquer. C'est vrai que l'idéalisme m'énerve beaucoup, donc me demander à moi de défendre l'idéalisme, c'est un peu comme demander au pape d'expliquer l'athéisme, mais je veux bien que vous ayez une autre... Je suis tout à fait prêt à avoir une discussion et que vous me donniez une autre définition. Mais la définition, si vous voulez, c'est lié à ce que j'ai déjà expliqué avec le holisme. C'est que, d'une certaine façon, c'est notre esprit, qui impose ces catégories à la réalité. Il n'y a pas dans la réalité des choses, des structures, etc. Mais c'est notre esprit qui projette, exactement comme dans le paradigme, comme dans l'holisme de Quine, si vous voulez. Bon, chez Quine, évidemment, il y a de l'expérience, il y a une relation avec l'expérience, etc. Il n'est pas strictement idéaliste. Mais vous projetez des catégories mentales sur la réalité, et c'est vous qui construisez, par conséquent, une vision d'une réalité qui elle-même n'a pas de structure autre que celle qui est imposée par votre esprit. Ça, c'est ma définition. Donc, si vous voulez, la réalité est une espèce de magma, informe. Il n'y a pas des chaises et des tables, etc. Il y a des chaises et des tables, si vous voulez, mais c'est votre esprit qui dit qu'il y a des chaises et des tables. Et votre esprit, d'une certaine façon, a des propriétés qui fait qu'il découpe la réalité en chaises et en tables. Vous pourriez dire, au lieu de dire qu'il y a des tables et des chaises, vous pourriez dire qu'il y a des atomes de toutes sortes, peut-être. D'accord ? Mais évidemment, on verra qu'à la fin, il n'y a même pas d'atomes. Je vais donner une situation qui, pour moi, me paraît claire, qui est de Kant, qui dit non seulement les gouttes de pluie sont de simples apparences, mais même leur forme ronde et même l'espace dans lequel elles tombent ne sont rien en eux-mêmes, mais sont simplement des modifications des formes fondamentales de notre intuition sensible, donc quelque chose qui se passe dans notre esprit. Et l'objet transcendantal, je veux dire, au-delà de l'expérience, par exemple les gouttes de pluie, nous reste inconnu. Et donc ça c'est le fond c'est lui qui a un peu inventé l'idéalisme, la meilleure façon de l'exprimer, je dirais, c'est que d'une certaine façon, vous voyez, les gouttes de pluie, tout ça, ce ne sont pas des choses en soi, comme ils disent, ce ne sont pas des choses qui existent en dehors de nous, mais ce sont des modifications de notre sensibilité. C'est des choses qui se passent d'une certaine façon dans notre tête, et comme il dit, l'objet lui-même, la goutte de pluie elle-même, nous reste inconnue, comme l'espace, le temps, etc. Et Oui. Je vous avais... Bon. Et donc, la question, c'est de savoir quel est l'argument qu'on peut trouver en faveur de... Est-ce qu'il y a un argument en faveur de cette position ? Quelle est la logique de cette position ? Et je vous assure qu'elle est vraiment répandue. Je vous donnerai d'autres exemples dans un moment. Peut-être que je peux, juste pour une petite récréation, vous dire qu'évidemment, on trouve de l'idéalisme en mécanique quantique, on la trouve chez les physiciens. Ça, c'est un livre de vulgarisation dans la mécanique quantique, le chat de Schrödinger, sur la couverture, il est marqué. Les physiciens se demandent si un arbre ou n'importe quoi d'autre doit être observé pour pouvoir réellement exister. Il n'est rien de réel, nous dit la mécanique quantique, ils ne pourront faire aucun commentaire sur des événements qui se produisent quand nous ne les observons pas. Donc c'est une forme d'idéalisme, si vous voulez, mais qui est encore plus forte, d'une certaine façon, qui a l'air de dire que c'est parce qu'on observe les choses qu'elles existent, alors que, d'une certaine façon, dans l'idéalisme tel que je l'ai défini, les choses ne changent pas parce qu'on les observe, d'accord ? Mais ce qui se passe dans notre esprit. Il y a une chose en soi, qui est une espèce de magma sans structure, où il n'y a pas de goutte de pluie, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trajectoire, rien du tout. Et puis il y a notre esprit qui projette sur cette chose en soi un certain découpage de la réalité. Ici, c'est pire que ça. Ici, c'est ce que Stowe appelle l'erreur de Tolstoï. C'est-à-dire, quand Tolstoï était jeune, il dit qu'il avait été préoccupé de philosophie et il a failli perdre la raison parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait comme ça et puis il se retournait pour voir si les choses devant lui n'avaient pas disparu. Mais il n'avait pas étudié la mécanique quantique, mais c'était l'idée. Et évidemment, ça, c'est une erreur. Ça, c'est quelque chose que les physiciens disent, mais vous ne trouvez pas vraiment ça chez les philosophes. Il faut un certain degré, à mon avis, d'idéalisme pire parce que dans l'esprit de l'idéalisme, il n'y a pas des choses qui entrent ou qui disparaissent quand on les regarde. Chez Berkeley, par exemple, qui est l'idéalisme premier, si vous voulez, l'évoque Berkeley, les choses sont tout à fait permanentes. Seulement, ce sont des idées dans l'esprit de Dieu, mais elles sont tout à fait permanentes. L'arbre dans la cour ne change pas suivant qu'on le regarde ou pas. Alors, évidemment, on dirait que c'est des vulgarisations, mais chez Bohr, il y a une phrase qui est typique aussi de ce que je critique chez les sociologues, c'est-à-dire, il dit qu'il n'y a pas de monde quantique, il y a seulement une description quantique abstraite. Bon, mettons, mais il est erroné de penser que la tâche de la physique est de savoir ce qu'est la nature. La physique s'occupe de ce que nous pouvons dire sur la nature. Et ça, évidemment, c'est une phrase qui, pour moi, est circulaire, parce que si on dit des choses sur la nature, on s'occupe déjà de savoir ce qu'est la nature. Donc, ça ne me paraît pas... C'est le genre de phrase qui n'est pas claire, comme on en trouve beaucoup chez Bohr. Mais il y en a qui sont carrément provocatrices, mais évidemment qui induisent les choses en confusion. Mermine, qui dit la doctrine sur laquelle le monde est fait d'objets dont l'existence est indépendante de la conscience humaine, se trouve être en conflit avec la mécanique quantique et avec des faits établis expérimentalement. Il dit, si on sait maintenant qu'on peut démontrer que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Ce qui est complètement idiot, mais je dis, d'abord l'histoire de la Lune qui n'est pas là quand personne ne la regarde, c'est une phrase célèbre d'Einstein qui, un jour excédé par la référence à l'observation mécanique quantique, a dit à Pais quand il était à Princeton, il a dit, est-ce que vous croyez vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde ? C'est pour ça que les physiciens ont donné, c'est comme ça, c'est Einstein qui a rendu la Lune célèbre, si vous voulez, et qu'on parle toujours de la Lune, mais il n'y a rien de spécial à la Lune, ça peut être les voitures dans la rue, ça peut être l'académie qui n'est pas là quand je la regarde pas, etc. Et je ne crois pas que Mermin pense ça sérieusement, parce que s'il le pensait sérieusement, comme le fait remarquer David Stowe, qui est un philosophe australien réaliste et que j'aime beaucoup, et qui le critique, il dit, ben alors, il n'y a pas de raison de prendre au sérieux ce que disent les physiciens, parce que les physiciens, évidemment, se basent sur des expériences se font dans les laboratoires, il faut bien croire que les laboratoires et les appareils de mesure existent même quand on ne les regarde pas. Je vais vous donner deux raisonnements en faveur de l'idéalisme. Bon, bien que dans le premier texte n'est pas n'a pas une intention idéaliste, à mon avis, mais le texte est idéaliste, enfin c'est un raisonnement idéaliste. Et puis le deuxième, c'est peut-être un canular, mais ça on y viendra dans un moment. Le premier texte, c'est de Hume, qui dit, c'est une question de fait de savoir si les perceptions des sens sont produites par des objets extérieurs qui leur ressemblent. À savoir si, par exemple, quand je vois une table, c'est parce qu'il y a une table. Comme je dis, là, chez Kant, il n'y a pas de goutte de pluie. On peut savoir est-ce qu'il y a des gouttes de pluie, je vois une goutte de pluie parce qu'il y a une goutte de pluie. Ici, il dira, comment cette question de Hume sera-t-elle résolue ? Par l'expérience, comme toutes les autres questions de pareille nature. Il faut tout résoudre par l'expérience. Mais ici, l'expérience reste et ne peut que rester entièrement silencieuse. L'esprit n'a jamais autre chose qui lui soit présent que les perceptions. Et il n'est pas possible qu'il obtienne une expérience quelconque de leur connexion avec des objets. La supposition d'une telle connexion est donc sans aucun fondement dans le raisonnement. Donc l'idée, je donnerai la structure formelle du raisonnement dans une minute, mais l'idée c'est que je ne peux pas affirmer quelque chose sur la correspondance entre mes sensations et le reste du monde, parce que pour le savoir, il faudrait me baser sur les sensations. Or, tant que je n'ai que mes sensations, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui lui correspond. Et Henri Poincaré, mais là, je ne sais pas s'il était sérieux, à la fin de La valeur de la science, dit « Tout ce qui n'est pas pensé est le pur néant, puisque nous ne pouvons penser que la pensée, et que tous les mots dont nous disposons pour parler des choses ne peuvent exprimer que des pensées. » Dire qu'il y a autre chose que la pensée, c'est donc une affirmation qui ne peut avoir de sens. Alors, David Stove, qui est un philosophe qui est un type très bizarre, enfin il est décédé aujourd'hui, écrit un livre qui s'appelle « The Plato Code and Other Philosophical Follies », qui est un livre très drôle, et je vous recommande si vous êtes intéressé par ce genre de choses, mais il fait le raisonnement suivant. Il dit « Le raisonnement pour l'idéalisme, qui est les deux raisonnements précédents, peut être résumé comme ça. Nous ne pouvons pas penser à des arbres qui existent en dehors de nous, en dehors de notre esprit, sans les avoir à l'esprit. Donc, nous ne pouvons pas penser à des arbres qui sont en dehors de notre esprit. » Et quand on le dit le « donc », le non sequitur devrait être apparent. D'accord ? C'est pas parce que je ne peux pas. Quand je pense à l'académie, mettons, je pense qu'il y a de l'herbe dans le jardin de l'académie, d'accord ? J'ai à l'esprit forcément le fait qu'il y a de l'herbe dans le jardin de l'académie. Mais je pense à l'herbe dans le jardin de l'académie comme existant en dehors de mon esprit. Pour le penser, je dois le penser dans mon esprit, ça c'est vrai. Mais ça ne prouve pas qu'il n'y a pas d'herbe dans le jardin de l'académie. Et ça ne prouve pas que je ne peux pas y penser. Or, c'est exactement, si vous lisez bien les textes qui sont un peu. Ce que dit Poincaré, c'est ça, et ce que dit Hume, c'est ça. Si vous résumez le raisonnement, c'est ça. Je ne peux pas avoir accès directement au monde extérieur si ce n'est à travers mes pensées, par conséquent, je ne peux pas avoir accès au monde extérieur. Alors, Stove, évidemment, réagit par l'ironie en introduisant l'idéalisme gastronomique. Nous ne pouvons pas manger des huîtres telles qu'elles sont en elles-mêmes, parce que nous ne pouvons pas manger des huîtres sans les mettre dans les conditions physiologiques et chimiques qui constituent les présuppositions de la possibilité de les manger. Et donc, ça c'est l'idéalisme gastronomique. Le raisonnement gastronomique peut paraître bizarre, mais le raisonnement pour la connaissance l'est tout autant, bien qu'il est en général traité avec beaucoup de respect. Alors, quelle est l'alternative ? Bon. L'alternative que je vais proposer, et là je vais aller assez brutalement, parce que je pense que ce n'est pas un sujet sur lequel il est utile de faire des concessions, parce que je n'ai pas de concessions à faire réellement, c'est le réalisme. Quand je défends cette conception, elle paraît toujours naïve, enfin j'ai des millions d'objections, je suis prêt à y répondre, mais bon. Le réalisme dit qu'il existe un monde indépendant de la conscience humaine, et ce monde est structuré, il a des propriétés intrinsèques. D'accord ? Un exemple, c'est par exemple, je sais que je suis, et les idéalistes le savent aussi, que je suis né, quand je suis né, je suis sorti du ventre de ma mère. Pour que ma mère me donne naissance, il fallait qu'elle ait des propriétés. C'est un organe biologique constitué de certaines propriétés. D'accord ? Je n'ai pas inventé ce monde. D'accord ? Et donc ça, c'est un exemple, bien banal, mais auquel je tiens, et qui montre que c'est ça ce que je veux dire par dire qu'il y a des propriétés intrinsèques, structurées et indépendantes de la conscience humaine. Une proposition est vraie ou fausse selon qu'elle reflète ou non les propriétés de ce monde. Donc, une proposition est vraie ou fausse, il y a deux bouteilles d'eau sur cette table, elle est vraie si et seulement s'il y a deux bouteilles d'eau, et c'est faux s'il y en a trois, ou zéro, ou une. D'accord ? Ce qui implique que la vérité et la fausseté d'une proposition est indépendante de la personne qui l'énonce et du groupe auquel elle appartient. C'est une relation entre une proposition et le monde, la vérité. D'accord ? Une proposition entre la vérité et ce monde indépendant possédant des propriétés. Nous pouvons connaître des propositions vraies sur le monde. Ce serait inintéressant, cette définition, s'il n'y avait jamais de propositions vraies sur le monde. Nous pouvons en connaître, par exemple, par l'expérience sensorielle. Je vois cette bouteille et je dis que je... C'est ce que j'appelle le réalisme de la vie quotidienne. Et le réalisme de la vie quotidienne, c'est un peu la première étape sur laquelle je veux reconstruire, si vous voulez, une épistémologie réaliste et rationaliste, c'est de partir de ce que j'appelle le réalisme de la vie quotidienne, c'est-à-dire que il y a mon pic ici, il y a un livre, un bloc de papier, un portable, etc. Toutes les évidences de la vie quotidienne, toutes les données immédiates des sens que vous avez, qui ne sont pas des données élémentaires des sens, c'est vraiment des choses que vous voyez, il y a autant de gens dans la salle, des chaises, voilà. Toutes ces choses-là sont des choses auxquelles j'ai accès par expérience directe et qui sont vraies. Alors, évidemment, quand on dit ça, je ne vous conseille pas de dire ça dans certains départements de sciences humaines ou de philosophie aujourd'hui, parce que vous passerez pour un naïf, mais pour moi, c'était essentiel. Évidemment, pour beaucoup de gens, c'est comme défendre ce qu'on appelle en américain, en anglais américain, défendre la maternité et la tarte aux pommes. C'est-à-dire, c'est dire des banalités. Je veux bien que c'est dire des banalités, je suis d'accord que c'est dire des banalités. Mais les banalités du réalisme de la vie quotidienne sont en contradiction, si vous les lisez bien, avec l'idéalisme tel qu'il est formulé par Kant, par Hume et par Poincaré, et par le constructivisme tel que je l'ai dit au début. Parce que si vous vous rappelez la définition de fait chez Fourré, le fait d'une interprétation d'une situation sur laquelle tout le monde est d'accord. Et moi, j'ai eu une heure de discussion à Namur, lors de l'affaire Sokal, etc., avec Fourré, justement sur la question de fait. Il y avait un avion qui s'était écrasé, en Sibérie à ce moment-là, je ne sais pas quoi, et j'ai passé une heure à essayer de discuter la distinction entre le fait que nous connaissions ce fait et le fait lui-même. Et ça, il refuse. Et donc l'idéalisme, évidemment, tout est dans la pensée, si vous voulez. Et si, en par ailleurs, vous considérez la pensée, alors vous socialisez l'idéalisme en considérant que la pensée est sociale, je ne sais pas très bien pourquoi elle serait sociale, parce que le simple fait qu'il y ait des êtres humains en dehors de vous est déjà un fait, mais ça, il passe sur ce problème. Si vous arrivez à la socialisation de l'idéalisme, alors vous arrivez à une description, si vous voulez, du monde dans lequel ce dont vous parlez, ce n'est plus les faits, mais la société, les représentations, la culture, le discours, etc. Alors, deux précautions quand même pour qu'on ne me prenne pas tout à fait pour un fou, c'est que nos sens peuvent nous tromper. Donc quand je parle d'expérience immédiate, ils peuvent nous tromper. Par conséquent, nous ne pourrons jamais être absolument certains du fait que nos connaissances sont vraies. D'accord ? Parce que comme ils peuvent nous tromper, je n'ai pas le moyen, et ça, Hume a raison, je n'ai pas le moyen de vérifier qu'ils ne me trompent pas autrement que par mes sens, d'accord ? Je peux, mais je ne peux pas être absolument certain. C'est ce qu'on appelle le faillibilisme. Mais le faillibilisme est différent de l'idéalisme parce que le faillibilisme dit on se trompe parfois, d'accord ? Je peux avoir une hallucination, je peux ne pas être aveuglé, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas le faillibilisme, c'est très différent de l'idéalisme parce que pour l'idéalisme, la question même de savoir ce qu'il y a réellement en dehors de nous ne se pose pas puisque tout est dans notre esprit. D'accord ? En fait, ce que je voudrais insister, c'est qu'il y a une position qui est plus radicale encore que l'idéalisme et qui est un des attraits de l'idéalisme, qui est le solipsisme. Un solipsisme est encore plus radical parce que le solipsisme dit qu'il y a ma conscience et rien d'autre. Il y a ma conscience, il n'y a rien d'autre dans le monde. Je n'ai pas de corps, vous n'existez pas, vous êtes un film dans ma conscience. Alors cette position-là, ce n'est pas du tout évident que même cette position-là soit cohérente. Parce que cette position-là, en général, est associée à mes souvenirs. Je me souviens, bien que vous n'existez pas, etc., je me souviens que j'ai préparé cet exposé dans les jours qui précèdent. Le souvenir que j'ai maintenant de ce qui précède n'est pas un élément de ma conscience. C'est-à-dire qu'à strictement parler, je ne devrais pas dire que ma conscience, il y a 3 jours, préparait cet exposé. Je devrais dire qu'à cet instant-ci, ma conscience a la conscience d'avoir préparé l'exposé, mais je ne peux pas dire qu'il y a un passé. Parce que dire qu'il y a un passé est tout aussi incertain que de dire que vous existez. Et donc ce qui est peut-être cohérent, c'est le solipsisme du présent. Dire que juste maintenant, il y a ma conscience qui existe avec ses souvenirs, et les souvenirs eux-mêmes ne correspondent à aucune réalité objective. Ça, c'est un des attraits de l'idéalisme, si on peut appeler ça un attrait, parce que ça, c'est une position qui est tellement extrême qu'elle n'est peut-être pas réfutable. Dans la mesure où elle n'est pas réfutable, on retombe toujours dans les discussions avec les idéalistes sur cette position-là. Et s'ils veulent dire ça, ils n'ont qu'à le dire, mais alors je ne parle plus avec eux parce que je n'existe pas pour eux. Je veux dire, il faut être sérieux. Donc, je veux dire, il faut savoir ce qu'on dit. Et l'idéalisme, chez Kant, en tout cas, se présente explicitement comme une troisième voie, si vous voulez, chez beaucoup de gens, comme une troisième voie entre le réalisme, des naïfs, des scientifiques naïfs comme moi, et le solipsisme. Il dit, on va trouver une troisième voie. On ne va pas dire qu'il n'y a rien en dehors de notre conscience, il y a quelque chose, il y a la chose en soi, mais elle n'a pas de structure, et la structure est projetée par notre esprit sur le monde. Et moi, je prétends que cette vision-là, elle est... Il n'y a pas d'argument pour cette vision-là. L'argument est, comme j'ai dit, erroné, si vous voulez, ce que j'ai expliqué avec l'idéalisme gastronomique. Il est erroné et il n'est pas, cette vision-là n'est pas réellement cohérente parce que si j'admets, par exemple, qu'il y a d'autres discours, qu'il y a d'autres personnes, etc., j'admets déjà des choses en dehors de moi. Et donc, si par exemple, on étudie souvent... Alors, dans l'idéalisme contemporain, il prend toutes sortes de formes que vous trouvez chez des gens qui n'ont rien à voir avec Kant. Vous le trouvez chez Nietzsche, vous le trouvez chez Foucault, vous le trouvez chez toutes sortes de gens, vous le trouvez chez certains marxistes, vous trouvez l'idée que ce qui compte, en fin de compte, c'est l'analyse du discours, l'analyse de la société, l'analyse de la culture, etc. C'est ça ce qu'on va analyser en premier lieu, et c'est bien sûr ce que font les sociologues des sciences, où l'objet, qui lui est incertain, chose en soi, inobservable, etc., est mis de côté. Mais les gens qui tiennent ces discours oublient qu'en ce qui les concerne, eux, le discours, la culture, l'histoire, le langage, le signifié, etc., ou la distinction signifié-signifiant, sont aussi des choses extérieures à leur conscience et devraient tout aussi bien être traitées de construction mentale, etc., que les chaises, les tables, les atomes, etc. Et donc, ils sont réalistes, mais de façon sélective. Ils sont réalistes pour les objets mentaux, mais pas pour les objets, pas les objets mentaux des autres personnes. Et ça, je ne vois aucun argument valide en faveur de cette position. Donc, je pense que... j'admets le faillibilisme, mais le faillibilisme est différent de l'idéalisme, de l'idéalisme ou du solipsisme, etc., parce qu'il dit simplement qu'on peut se tromper, qu'on ne peut jamais être sûr. Et la connaissance, finalement, est humaine, ça c'est une autre précision que je dois faire avant qu'on m'accuse de folie, parce qu'elle est le résultat d'une interaction spécifique entre nous, êtres humains, les animaux particuliers que nous sommes, et le monde. Interaction qui elle-même dépend de notre biologie, de notre histoire, peut-être de notre culture. D'autres espèces ou d'autres histoires, d'autres cultures auront d'autres types d'interactions, mais néanmoins avec le même monde. D'accord ? Il y a un monde, si je dis qu'il y a un monde objectif indépendamment de nous, l'interaction qui dépend évidemment de notre biologie, dépend des oiseaux, une autre type d'interaction, mais il y a des arbres pour les oiseaux comme il y a des arbres pour nous, pour simplifier les choses. Non, les oiseaux, bon, je ne sais pas quelles idées ils ont exactement des arbres, mais ils ont une autre idée de nous. Mais ça, c'est la vision dont je veux partir et je veux défendre. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être la maternité de la tarte aux pommes, mais c'est contesté par tous les discours précédents que j'ai cités. Si vous regardez en détail, vous verrez que toutes les personnes précédentes, quand on leur oppose le réalisme de la vie quotidienne, sont toujours embarrassées. Il y a des gens qui disent, et ça, ce à quoi je viendrai peut-être dans le troisième cours, qui sont plus subtils, qui sont réalistes dans la vie quotidienne, mais qui ne sont pas avec des entités théoriques introduites en science, comme les électrons, les photons, les forces, les champs gravitationnels, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un débat plus subtil. C'est pas parce qu'on appelle l'instrumentalisme en philosophie des sciences, c'est un problème plus subtil. Moi, je veux m'attaquer pour l'instant simplement à l'idéalisme et établir une vision réaliste, parce que dans les exemples, par exemple, quand on dit qu'un ordinateur est sur le bureau, on veut dire que personne ne conteste qu'il y a un ordinateur sur le bureau. Non, pour moi, ça a un sens de dire qu'il y a un ordinateur sur le bureau, même si tout le monde dans la salle s'était mis d'accord pour me prétendre qu'il n'y a pas d'ordinateur sur un bureau. Vous pourriez tous vous mettre d'accord pour en faire une blague et dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, même si j'en vois un, c'est pour ça qu'il n'y en aurait pas. Je veux dire, la question, une fois que vous introduisez la distinction entre les faits et la connaissance qu'on en a, vous avez gagné énormément dans l'analyse des discours. Quand vous rentrez dans tous ces discours que j'appelle idéaliste, et que vous gardez en tête fermement cette distinction entre les faits et la connaissance qu'on en a, vous gagnez énormément. Évidemment, vous ne savez pas quoi faire avec le manuel d'épistémologie de Fourier distribué aux profs dans le secondaire, parce qu'il nie ça tout le temps. Et donc, quand il dit objectif, par exemple, si vous regardez objectif, l'objectivité, c'est suivre les règles. C'est suivre les règles seulement instituées. Mais bon, si les règles sont celles d'une secte, par exemple, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on est objectif. Alors, il n'y a pas que moi qui dis ça, évidemment. J'ai de bonnes références. Euler, par exemple, dans une lettre à une princesse d'Allemagne, ça montre que le débat est ancien, il dit que mon cerveau excite dans mon âme, donc mon esprit, la sensation d'un arbre ou d'une maison. Je prononce hardiment qu'il existe réellement hors de moi un arbre ou une maison, dont je connais même le lieu, la grandeur et d'autres propriétés. Vous voyez le contraste avec Kant. Aussi ne trouve-t-on ni homme ni bête qui doute de cette vérité. Si un paysan voulait douter, s'il disait par exemple qu'il ne croyait pas que son baïf existe, quoi qu'il fût devant lui, on le prendrait pour un fou, et cela avec raison. Mais dès qu'un philosophe avance de tels sentiments, il veut qu'on admire son esprit et ses lumières, qui surpassent infiniment celles du peuple. Bon, je laisse de côté l'ironie finale, mais avec laquelle je suis encore en partie d'accord, mais enfin, mettons ça de côté. Mais vous voyez que vous avez évidemment des assertions. Alors, il y a aussi, on vient de traiter les choses par l'ironie. Une des ironies, c'est Jean-François Revel, qui est connu surtout comme un polémiste et un journaliste, mais qui, dans sa jeunesse, a fait des études de philosophie, a écrit une histoire de la philosophie occidentale qui est assez intéressante. Il a écrit déjà des pamphlets, Pourquoi des philosophes, La cabale des dévots, etc., où il critiquait déjà les tendances à l'idéalisme de la philosophie française des années 50 et 60. Et il écrit dans l'histoire de la philosophie la chose suivante. Il avait un professeur qu'il appelait un Hamelinien. Hamelin est un philosophe qui a eu son demi-siècle de gloire, comme il dit, à la Sorbonne, qui était un professeur de philo, et dont un disciple lui avait donné le devoir suivant. Étant donné qu'un rocher est une création de mon entendement, comment est-il possible que je sois tué par la chute d'un rocher, puis je serai alors écrabouillé par une de mes propres représentations? Peut-on se suicider à l'aide d'un de ses propres concepts, ou être surpris et assassiné par lui? Problème à résoudre d'urgence, on le voit, je trouvais. Et finalement, Russell, qui, après une période idéaliste, il dit ça dans My Philosophical Development, donc à la fin de sa vie, il dit, je pense, il y a des choses, c'est quelqu'un qui a changé la vie sur à peu près tout, mais il a une chose sur laquelle il n'a pas changé la vie, il dit, c'est ceci, je pense toujours qu'une proposition isolée peut être vraie, ça c'est une forme d'atomisme qui n'est pas tout à fait faux, je pense toujours qu'une proposition, et ça ce qui est important, c'est la notion de vérité, si elle est vraie, elle est en relation à un fait, et que les faits sont en général indépendants de l'expérience. Je ne vois rien d'impossible dans un univers dénué d'expérience. Au contraire, je pense que l'expérience, donc l'expérience personnelle, on ne parle pas de faire des expériences en science, on parle d'expérience, est un aspect restreint, cosmiquement trivial, d'une toute petite partie de l'univers. Sur toutes ces questions, mes vues n'ont pas changé depuis que j'ai abandonné les enseignements de Kant et de Hegel. Il faut dire sous l'influence de Moore. Moore, évidemment, de nouveau, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, il a dit, voilà, je démontre l'existence du monde extérieur, voici ma main gauche, voici ma main droite. Et il n'y a pas moyen de faire autrement que de donner des exemples de propositions. Quand vous voulez expliquer le réalisme de la vie quotidienne, vous ne pouvez pas expliquer au-delà des exemples. Mais vous pouvez donner des tas d'exemples. Si vous ne comprenez pas les exemples, à la fin, je dirais que alors, vous devez m'expliquer votre alternative, qui peut être le solipsisme, qui n'est pas réfutable, qui peut être l'idéalisme, qui est vide, à mon avis, qui est autocontradictoire. Et Russell explique qu'un jour, il est sorti à Cambridge, et il a dit, ah, by Jove, comme ils disent en anglais, on peut dire que l'herbe est verte et le ciel est bleu. Avant, c'était dans sa tête. Avant de remonter, donc je veux remonter en commençant par le début, quoi, d'accord? Je veux d'abord rétablir le réel de la vie quotidienne, qui est, comme je dis, contredit par les textes que je critique. Et puis, essayer de contre l'idéalisme. Et puis alors, après, dire qu'est-ce qu'on fait avec le holisme, Quine. Quine n'est sûrement pas strictement idéaliste, il y a seulement des ambiguïtés. Alors, il y a l'ensemble de la vérité. Alors, évidemment, comme je l'ai déjà dit, une proposition est vraie, pour moi, si elle correspond, si elle reflète un état du monde. Et quand vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire refléter? Comme je l'ai dit, je ne peux faire que donner des exemples. Je ne peux pas vous définir ce que c'est que refléter, sauf en disant, voilà, il y a une bouteille d'eau. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une bouteille d'eau, alors, si vous ne connaissez pas le français, mais si vous connaissez le français, vous savez ce que c'est qu'une bouteille d'eau. Il y a une bouteille d'eau là, il y en a deux. Bon. Et donc, je ne peux faire que donner des exemples, mais à travers les exemples, j'estime que j'explique et je montre ce que j'entends par vérité. Et je n'ai pas toute notion de vérité. Mais à cause de la difficulté du fait qu'il n'y a pas moyen de définir la vérité, c'est-à-dire la vérité de notion primitive, si vous voulez, ou bien vous savez ce que c'est, vous connaissez la langue française, ou bien vous ne savez pas, à cause de cela, il y a des théories alternatives. Et la vérité, telle que je l'emploie, a acquis un titre qui s'appelle la vérité correspondance. Et moi, comme dit Sokal, Sokal il dit aussi, bon, c'est tellement banal qu'on ne voit pas très bien pourquoi ça doit avoir un nom. Hein, c'est la vérité telle qu'elle est entendue par tout le monde. Mais, c'est la vérité correspondante. On vous dit quelles sont les autres notions de vérité. Les autres notions de vérité, d'objectivité, si vous voulez, sont de deux types en gros, qu'on en trouve dans la littérature, il y en a peut-être d'autres, enfin, ce que je trouve, c'est l'utilité et le consensus. Alors, l'utilité et le consensus sont admirablement résumés par Horty, qui est un philosophe formé dans la tradition analytique, mais qui est devenu plus ou moins postmoderne et idéaliste, et plutôt proche de la philosophie continentale, mais contrairement à beaucoup de philosophes dits continentaux, il a gardé sa tradition, l'habitude d'écrire clairement. Et donc j'aime bien le citer parce qu'au moins c'est tout à fait non ambigu. Il dit, les philosophes qui sont de mon côté répondent que l'objectivité n'est pas une question de correspondre à des objets, ce que je viens de dire, mais de se mettre d'accord avec d'autres sujets, et qu'il n'y a rien dans l'objectivité si ce n'est l'intersubjectivité. D'accord ? Et donc c'est évidemment ce que vous trouvez aussi dans les descriptions des pratiques scientifiques que vous avez trouvées dans le texte que j'ai cité de Latour, dans les textes que vous avez cités de Stengers, etc. Et alors il dit aussi, ce que des gens comme Kuhn, Derrida et moi pensent, c'est qu'il est inutile de se demander, sans but, de se demander s'il existe réellement des montagnes, pas des atomes, hein, des montagnes, ou s'il est seulement pratique, utile de parler de montagnes. Donc l'idée, c'est que vous allez substituer un ensemble de vérité, il y a des montagnes, objectives, correspondance, le consensus, et l'autre, enfin l'une c'est le consensus et l'autre c'est l'utilité. Et alors l'argument est nouveau, un peu comme l'argument pour l'idéalisme, c'est un argument qui à mon avis est vide. Le seul critère, dit-il, que nous avons pour appliquer le mot vrai est la justification, et la justification est toujours relative à une audience, on introduit évidemment le réalisme, et c'est toujours relatif aux lumières d'une audience, au but que cette audience veut voir servir, et à la situation dans laquelle elle se trouve. Donc c'est tout à fait, c'est nouveau, on retombe évidemment dans l'idée que la vérité est relative à l'audience et à des questions épistémiques. Et nos amis Barnes et Bloor, évidemment, disent le relativisme, c'est eux qui avaient dit le relativiste, il n'y a pas de sens pour le relativiste de dire qu'il y a des choses qui sont vraiment rationnelles par opposition à accepter localement comme telles. Il dit, le relativiste comme tout le monde doit faire un tri dans ses croyances, je viendrai au problème du tri la fois prochaine, en accepter certaines et en rejeter d'autres. Il aura naturellement des préférences et celles-ci vont en général coïncider avec celles d'autres personnes qui habitent au même endroit. Bon, c'est la partie qui est vraie, qui est, on pourrait dire même malheureusement vraie, il y a beaucoup trop de conformisme dans la société, mais les mots vrais et faux fournissent l'idiome dans lequel ces évaluations sont exprimées, et les mots rationnels et irrationnels remplissent une fonction similaire. Si vous regardez la définition de rationalité chez Fourier, c'est exactement ça. Être rationnel, c'est être d'accord avec les gens autour d'eux. Par conséquent, Galilée et Darwin étaient irrationnels parce qu'ils introduisaient des idées nouvelles en science. C'est-à-dire qu'on en est à un point où, dans des discours sur les sciences, on vous explique que les plus grands créateurs scientifiques, qui forcément n'étaient pas d'accord avec des gens qui habitaient au même endroit qu'eux, surtout quand Galilée se trouvait devant le tribunal de l'Inquisition, sont irrationnels. C'est la conclusion logique. Moi, je prends le truc à la lettre. On peut dire, c'est pas ça ce qu'on veut dire, mais il faut savoir ce qu'on veut dire. Et donc, on est dans le discours où on a déplacé la question de la correspondance à cause des problèmes qu'elle pose, du fait qu'elle n'est pas définissable, et qu'on croit que l'utilité est définissable, et qu'on croit que le consensus est définissable, et que par conséquent ça donne une base plus solide, plus rigoureuse, plus nette à la notion de vérité, on a remplacé, on tombe dans les absurdités. On tombe dans les absurdités, mais il faut aussi se rendre compte qu'on n'a rien gagné. Parce que si vous parlez d'utilité, comment savez-vous que quelque chose est vraiment utile? Est-ce que il était utile pour l'Allemagne de faire la guerre à l'Union soviétique? Je pense que non. Est-ce qu'il était utile pour les Américains de faire la guerre à l'Irak? Je pense aussi que non. Peut-être l'histoire dira que j'ai tort. Mais je veux dire, si vous posez la question de savoir si les choses sont vraiment utiles, vous retombez dans la question de la correspondance. Est-ce que les choses sont vraiment utiles? Et ça, c'est de nouveau une question. Le métadiscours sur l'utilité est un discours maintenant sur le monde. Si vous posez la question du consensus, c'est la même chose. Si vous voulez dire que la Terre est ronde est vrai parce que tout le monde croit que la Terre est ronde et pas pour d'autres raisons, ce qui serait évidemment dans la logique de Fourier, ou le remplacement, oui, ça c'est aussi typique. Chez Fourier, on remplace un fait par un autre, la rotation de la Terre, du Soleil autour de la Terre, par la rotation de la Terre autour du Soleil. Ça paraît bizarre de dire que les faits ont changé, mais si tout est dans le discours, quand le discours a changé, les faits ont changé. Ça, si je lui dis oui, mais la Terre, elle s'en fiche de ce qu'on raconte sur elle. Non, parce que c'est la chose en soi, c'est toujours le truc qui a été éliminé par l'idéalisme. Comprenez? Et donc, alors évidemment la question du consensus, à part pour des banalités comme la rotation de la Terre ou la sphéricité de la Terre, le simple fait de savoir quel est le consensus, est-ce qu'il y a 64% des gens ou 85% des gens qui pensent que, par exemple, je ne sais pas, qui pensent que le monde est vieux de 6000 ans au moins ou quelque chose comme ça, donc vous devez faire des enquêtes. Donc l'assertion comme quoi il y a consensus est déjà une assertion factuelle et qui retombe sur la notion traditionnelle de la vérité. Et donc je prétends que non seulement on tombe dans les absurdités, et du point de vue pédagogique, du point de vue de dire qu'on va enseigner aux élèves que si on n'est pas d'accord avec les gens autour de soi, on est irrationnel, et que par conséquent Einstein et Darwin l'étaient, et qu'on fait ça dans des cours de philosophie des sciences, je trouve ça désastreux comme ça en soi, mais il faut se rendre compte que même d'un point de vue purement philosophique, on n'a rien gagné, parce qu'on retombe sur la question de la vérité, on n'élimine pas la question de la vérité correspondance. Et donc, autant l'accepter dès le début, et, comme disait Euler, proclamer hardiment qu'il y a le bailli devant moi, quand je vois le bailli qui est devant moi, ou des choses de ce type-là. Bon, on va arrêter. Ouais.